cheveux un peu sensibles?
Bah c'est toi que ça regarde, je sais pas.
T'as toujours été un mec très sensible. Toujours.
Je suis la chercher celle-là.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, pour vous divertir, j'ai avec moi une fine équipe, à commencer par Camille.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va et toi?
Bah ça va, ça roule. Juan.
Bonsoir.
Ça roule.
Oui, ça va.
Et on a une invitée, une auditrice qui est venue enregistrer avec nous. C'est Mina, ça va?
Salut, ça va et toi?
Bah ça va, nickel. Ah, elle demande les gentils.
J'ai demandé aussi juste pour signaler. Hein,
ouais, c'est vrai. C'est vrai que t'es pas voilà. Le plus gentil aussi. Bah ça va, ça roule. J'ai passé une bonne semaine.
Très bien. Je me posais une question. Je me demandais si les auditeurs hochaient la tête comme nous à chaque fois qu'on met le générique d'ouverture. J'ai jamais réussi à l'écouter sans faire un.
C'est vrai qu'on flexe beaucoup pendant l'intro.
En tant qu'auditrice, je confirme que ouais.
Tu flexes aussi.
Carrément, ouais.
Ah, mais c'est cool. Tu vas pouvoir nous dire un peu ce que ressentent les auditeurs. C'est parfait.
Et ouais, en live.
Cool. Bah du coup, de quoi vous allez nous parler? Bah tiens, on va commencer par Camille.
Bah moi, on va parler sex toys.
Évidemment.
Ah, un bon gros sujet historique.
Voilà. Non, l'histoire du sex toy.
Ah, d'accord.
Ah, voilà. Et on va quand même se cultiver un minimum.
C'est les sex toys dans le suicide ou pendant la peste ou
Alors, non, c'est les sex toys pendant la guerre de 100 ans, là.
Dis-moi que c'est pas vrai.
Il fallait que ce soit glauque à un moment donné.
C'est pas vrai.
Ah putain, j'ai tellement peur. Ok, Juan.
Moi, je vais vous parler des sitcoms. Voilà.
C'est pas d'internet, j'imagine. C'est des séries télé.
Des sitcoms d'internet ou... enfin, non.
Mais je préfère préciser.
Non, ouais. Les séries sous format sitcom, je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure.
Voilà. Parfait. Emina ?
Moi, je vais vous parler du réchauffement climatique.
Ah. Tintin. J'ai pas de jingle. Tintin.
Merci pour ce beau jingle, j'apprécie vraiment.
Je l'ai fait tout seul avec ma bouche.
Ah, oh.
Et toi, Ilias, de quoi tu vas nous parler ?
J'ai eu peur d'un coup, mais heureusement qu'il y a Camille. Moi, je vais vous parler du rastafarisme. Voilà, des mecs avec des longs cheveux qui font plein de trucs intéressants.
D'accord, ah ouais. Yeah.
Ouais. Ouais. Et bah du coup, on va pouvoir partir sur le sujet de Camille.
Bah on va partir sur le sujet de Camille.
Je suis chaude comme la brise.
Can you guess what it is?
I think it's a microphone. What is it for, like, massaging?
That is a vibrator.
Like a real vibrator.
Oh god.
Call this number to order these and more now. Adult toys, because the real world is depressing.
Tout en finesse.
L'intro est parfaite.
Merci pour cette intro. Merci, Juan. Elles sont mieux de jour en jour. Donc, franchement, celle-ci est formidable. Alors, ce soir, nous allons parler de sextoys tous ensemble.
Et on est bien contents.
Et on est bien contents. Hein, ça change de Napoléon. Hein. Il nous a chié, ce con. Là, au moins, ça va être sympa. Alors, le mot français pour sextoy, qu'est-ce que c'est?
Dildo.
Jouet d'adulte.
Non plus.
Jouet de plaisir.
Masseur.
Non. Godmiché.
Ah oui,
Godmiché,
oui.
Voyons.
Mais Godmiché, c'est un jouet tout seul, non?
Et donc, comment?
C'est pas un jouet à lui tout seul?
Pour les enfants, quoi.
Ça veut dire, voilà, est-ce que c'est un genre de
oui,
sextoy?
Oui, voilà.
Non, ça veut dire sextoy en français.
D'accord. Okay.
Et en fait, c'est une expression qui apparaît au Moyen-Âge et qui vient de Godmiché.
Ça m'a étonné, ça. Inventé par les licornes.
Et qui vient de God Mihi, qui est du latin médiéval, qui veut dire réjouis-moi. Voilà.
Habile.
Oui,
c'est mignon.
Logique.
Évident.
Alors, avant de parler God Mihi aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de sextoy, l'histoire du sextoy, parce que aujourd'hui, il n'y a plus de honte à avoir un sextoy, à aller s'en acheter. C'est quelque chose qui nous paraît assez moderne. Or, vous allez voir que non, absolument pas. Étant donné que le plus vieux sextoy de l'histoire qu'on ait retrouvé, il a 30 000 ans.
Est-ce qu'il était en bois?
Il était en pierre.
Dur, j'ai envie de dire.
Mais... Les menhirs, donc.
Ah, la vache.
Donc, il était en pierre et il a été retrouvé en Allemagne dans une grotte. Et donc, on a retrouvé un godmiché simple en forme de pénis, de chibre.
Ouais.
Et un double. Voilà.
je peux me permettre une question?
Oui.
Comment on sait que c'était pas juste genre un espèce de truc pour
J'aime bien ce que tu fais que t'as
c'est, pardon, c'est pas très radiophonique, mais un truc pour pilonner.
On va dire que
pour,
t'étais en train de, voilà, de piler du piment.
Oui, voilà.
Alors, ouais. Parce que d'une part, la forme.
Forme de pilon. C'est-à-dire que les pilons ont
rarement... Il y avait des petites veines dessus.
Ouais, il y avait le détail, tu vois.
C'est plutôt en forme de bite, pour être honnête. Voilà.
J'ai tellement hâte de voir les images.
Et apparemment, ils ont retrouvé des traces d'érosion.
J'ai tellement peur avec les traces. J'ai eu une bouffée d'un coup, là. Je
des traces pas d'érosion.
Bon appétit.
Ouais.
Purée.
Ça va être facile, vas-y.
Alors, très bien, reprenons, soyons sérieux. Durant l'Antiquité, les sextoys sont également utilisés, notamment par les Grecs et les Japonais, qui utilisent ce qu'ils appellent des holisbos. Donc, je crois que ça veut dire jouer en cuir en grec.
Okay.
Voilà, et en fait, c'est plutôt mignon. C'est les maris, lorsqu'ils partaient à la guerre ou qu'ils partaient longtemps pour voyager, ils en offraient un à leur femme avant de partir.
Ah, c'est gentil.
C'est chouette, attention.
Belle attention.
Tu t'entretiens. Ouais. Hein.
Exactement. Donc, au Moyen-Âge, il est plutôt difficile de savoir pour le Moyen-Âge. Vous vous souvenez, on en avait parlé, qu'il n'y a pas non plus une sexualité dont on parle énormément. Mm-hmm. Et donc, on a peu de sources concernant le Moyen-Âge. Mais on sait que les sextoys sont toujours présents et c'est là qu'ils commencent à apparaître dans des matières extrêmement variées. Donc en cuir, en bois, en ivoire, en pierre. Et notons également que les femmes de l'époque avaient déjà perçu tous les bienfaits du concombre pour notre organisme.
Voilà. Ah, maligne.
Il va être voilà. Super dur, c'est sûr.
Mais en bois, c'est quand même râpeux, non?
Moi, ouais, je pense plutôt aux échardes, personnellement.
Ah, ouais,
mais,
ouais, voilà.
Ouais, parce
voilà.
Que les baquettes du japonais, ou enfin les échardes avant, là, j'imagine que... Ouais, ça...
Mais c'est marrant que ce soit aussi ancien, parce que moi, il me semblait avoir entendu que le sextoy, c'était par rapport aux femmes qui étaient hystériques.
Ouais, on va en parler, okay, mais ça, c'est...
Je vais pas spoiler, alors.
Voilà,
mais il me semblait que ça venait de là, à la base.
Il y a une évolution tout à fait à ce
oui,
sujet-là.
Ils ont pas attendu si longtemps pour se mettre des trucs,
non,
finalement.
Non, bien sûr que non. On a rien inventé. Hein.
Je pense que ouais, c'était assez instinctif.
Voilà, ils étaient intrigués. Alors, à partir du XVIIIe siècle, les marins français et espagnols, parce que le sextoy ne concerne pas que les femmes, les marins français et espagnols vont emporter des manchons en caoutchouc lors de leur voyage, qu'ils vont appeler des femmes de voyage.
Genre la traque, quoi.
La tête d'Ilias vaut 10 000 dollars.
Clairement.
J'ai cru qu'il y en avait un qui s'appelait la tête d'Ilias.
Ça aurait été magique.
Voilà, les femmes de voyage, cette espèce de moufle à l'American Pie.
C'est exactement ça. Et notons également que durant le même siècle, en 1734, on a en France un abbé qui s'appelait l'abbé de Saint-Pierre et qui a créé une machine qui s'appelait le trémoussoir. Et donc le trémoussoir, c'est un fauteuil à ressort. Voilà. Et en fait, cet abbé Saint-Pierre, il avait compris que les vibrations avaient des vertus sur le corps, pour la santé, pour la bonne humeur, etc.
Ouais. Je me sens obligé de préciser que t'as fait un gros lapsus et que t'as dit l'habit de Saint-Pierre au lieu de l'abbé.
J'ai pas osé le relever, mais voilà.
Merde,
pas
mal. J'ai eu un gros doute. Non, l'abbé, il s'agit d'un homme d'église. Hein. Après, l'abbé,
oui.
L'abbé avait une bite, hein, mais voilà, l'abbé Saint-Pierre. Et donc en fait, il avait remarqué ça, notamment dans les carrosses. Il avait constaté que lorsque les carrosses étaient sur les pavés, ça secouait, on était bien, ça détendait. Donc il va créer ce fameux trémoussoir. Alors à l'origine, ce trémoussoir, il a un usage non sexuel, mais l'idée de la vibration qui fait du bien va faire son chemin, et au début du 19e siècle, on va inventer le premier vibromasseur. Donc alors, c'est un vibromasseur à vapeur.
Au début du 18e siècle.
Du 19e siècle, ah, 19e, pardon, désolé. Du 19e.
Donc, genre, on mettait du bois dedans avec...
Exactement. C'est un vibromasseur.
Mais...
À vapeur, je me suis dit, ça doit être extrêmement contraignant quand on veut se servir de son vibro.
Et puis imagine si côté Jules Verne, je trouve.
Et puis c'est
un peu mal à visualiser le truc.
C'est un côté steampunk un peu.
Et si ça déconne au niveau de la chaleur, c'est l'enfer.
Oui.
Et le premier vibromasseur à être inventé de façon, avec un système électrique, c'est en 1883 avec le docteur Joseph Mortimer Granville, qui est anglais, qui vient de Londres, et qui va effectivement créer cette machine pour traiter l'hystérie des femmes.
Parce qu'il en avait marre d'avoir mal au poignet.
C'est vrai, non ? C'est un peu l'idée. En fait, on est en pleine époque victorienne à Londres. L'époque victorienne, c'est une époque un petit peu coincée du cul, pour être honnête avec vous. Et c'est une époque où les femmes n'ont pas leur mot à dire, où la femme, c'est une épouse qui est là pour faire des enfants et pour élever des enfants, et où les maris, ils vont au bordel, ils vont s'amuser, etc. Une fois qu'ils ont fait des enfants, ils touchent plus à leur femme. Donc on a des femmes légèrement frustrées à cette époque-là. Et donc, ce docteur, il se dit, je vais inventer une machine qui va servir à traiter la femme. Et donc, il y a des patientes qui viennent dans son cabinet, on leur dit qu'elles sont complètement hystériques. Et plutôt que de remettre en cause cette société patriarcale, eh ben, on donne un beau grand orgasme à maman, et puis elle rentre chez elle, elle est plus calme. Et,
elle est détendue.
Exactement. Et tout le monde est content.
Ouais, parce que moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'en fait, les médecins devaient faire jouir les femmes en fait, pour traiter l'hystérie.
C'est ça.
Et ils en avaient vraiment marre parce que c'était fatigant, finalement.
Mais, attends.
À la main, j'entends.
Non, on est bien sérieux. Hein. Ouais, oui, les femmes qui sont en consultation.
Et du coup, Granville a créé le sextoy.
C'est les marques qui les envoyaient.
Oh, au secours.
Elles étaient traitées comme malades, c'est triste.
Mais bien sûr, ouais, non, elles étaient traitées comme malades.
À l'époque, l'orgasme féminin, c'était un inconnu. Enfin, ça ne servait à rien, finalement.
Exactement.
Pour la
société victorienne. Il n'y avait aucun intérêt. Et donc, bah, c'est des maris qui envoyaient des femmes chez des éminents professeurs. Et les professeurs devaient leur filer des orgasmes pour leur libérer, entre guillemets, je sais pas, les chakras,
c'est,
quelque chose comme ça.
C'est horrible, quoi, mais c'est le début de la décadence, quoi. J'ai la flemme de faire jouer ma femme, vas-y, va chez le médecin, je vais faire ça par quelqu'un d'autre.
Mais là, t'es aussi à l'âge d'or, enfin, ouais, c'est l'âge d'or du mariage forcé, hein. Donc t'as pas envie de faire jouer ta femme.
Et puis c'est l'âge de pierre de la relation homme-femme, quoi.
Ah, mais tout à fait. Le 19e siècle est la pire période, je pense, pour l'histoire du couple. Donc on va avoir, voilà, cette machine qui est créée. Alors il faut vous dire que... J'ai vu des gravures sur internet. Vous avez d'un côté le vibromasseur qui en fait c'est donc c'est un godemiché en fait qui est fixé à un tube en métal et le tube il bouge.
Évidemment.
Juste voilà. Pour les auditeurs, il y a Camille qui fait des gestes. En fait, à chaque fois,
c'est très visuel comme rubrique.
Non, mais surtout, moi, ça m'atterre d'imaginer un énorme tube de genre 50 cm de long.
Ce qu'on va faire, Camille, c'est comme tout à l'heure, t'as fait une saucisse de morteau. Je t'invite à faire ça.
Et en fait, ce système-là de godemiché qui avance et qui recule est relié à une batterie qui, pour l'époque, faisait la même taille qu'une batterie de voiture. Et donc, voilà, il faut vous dire, c'est pas simple.
Donc, ils avaient une salle de jouissance, finalement.
C'est un peu ça. Et donc, les bonnes femmes, on les mettait sur des fauteuils en mode fauteuil de gynéco ou siège d'accouchement. Et
oh,
hop là
non.
Oh, c'est bon.
Écarte les jambes, maman, on y va, on va soigner ton hystérie.
Camille, voilà. Je pensais que ça allait être un sujet fun.
Grave.
Bah non, mais.
C'est vrai que t'es un peu blanc.
Ah oh, non, mais là, oh, je me sens mal, quoi. J'imagine les scènes, c'est. L'enfer.
Bref, passons. Au XXe siècle, avec entre guillemets la popularisation de l'électricité, il n'y a plus besoin d'aller chez le médecin pour avoir accès au sextoy. On va avoir, dans la grande joie, exactement, les premiers sextoys vibromasseurs personnels qu'on peut avoir chez soi. Et donc ça va apparaître à partir des années 50. Les années 50, il faut vous dire, c'est la période où on va commercialiser de latex. Donc c'est la période où au niveau des accessoires liés à la pornographie ou au sexe, ça explose.
C'est la début de la fête.
Il y a l'industrie du sexe en fait qui se développe à fond dans les années 50.
Mais il n'y a pas la société qui change un petit peu aussi avec une petite libération sexuelle. Enfin, c'est plus tard, mais...
C'est encore plus tard. Hein, okay. Dans les années 50, on a encore un petit peu coincé du bulbe hein, dans les années 50. Voilà. Alors, on a également à cette époque-là un soldat américain, le J. Duncan, qui en fait va revenir de je ne sais trop quelle guerre handicapé ou en tout cas fortement mutilé. Il pouvait plus avoir de rapport sexuel avec sa femme et donc il va inventer le premier sextoy en silicone pour sa femme.
Nice. Voilà, c'était également. Est-ce qu'il l'a appelé G.I. Duncan?
C'est stylé pour un nom de sextoy, oui. Mais je sais pas. Alors aujourd'hui, comme je le disais, il n'y a plus du tout de honte à avoir un sextoy. C'est monnaie courante. D'après une étude menée par Price Minister, alors oui, vous avez vu, je prends des études méga sérieuses.
Ah bah le groupe Rakuten quand même.
Price Minister a mené en tout cas une étude sur son site et ils ont constaté que le plus grand nombre de commandes en France concernant les sextoys sont faites à Montpellier. Donc si on a des, si on a des auditeurs génial. De Montpellier qui nous écoutent.
Ah la statistique gratos quoi.
Ils sont coquins. Et les hommes commandent deux fois plus de vibromasseurs que les femmes.
Et oui, c'est le cadeau qui marche finalement.
Donc,
oui,
le cadeau ou pas.
À Noël.
Oui.
Voilà.
Oui, le cadeau ou pas, oui, c'est vrai.
Le cadeau ou pas.
Tout à fait.
Et il y a un phénomène qui va faire exploser là, qui a fait exploser ces dernières années les ventes de sextoys. À votre avis, qu'est-ce que c'est?
Les sextoys connectés.
50 shades of Grey.
Ouais, 51 degrés.
Ah, vraiment?
Eh oui, ça a reboosté l'industrie du sextoy à fond les ballons.
Moi, ouais. J'aurais dit que c'était les sex shops en eux-mêmes. Parce que les sex shops, maintenant, on dirait des Apple Store. C'est vraiment.
T'es pas allé au nord de Paris. Hein.
Non, je suis pas allé. Je parle pas de Pigalle et tout ça où c'est un peu glauque.
J'allais dire, ça, c'est
là,
au
c'est
centre de Paris.
Là,
tu parles du passage du désir, ce genre de choses.
Je sais pas, ouais, je vais citer la marque, mais c'est Concorde que j'ai en tête, je crois.
Ouais, t'as
un ou deux dans le sud de Paris, tu passes devant, tu fais, mais. Quand t'as l'impression que tu vas aller faire réparer ton téléphone.
Ouais, mais en ça fait, c'est à Paris, c'est en province c'est pas le cas. Moi là je reviens de quelques jours à Besançon et je peux te garantir que les sextoys à Besançon à côté de la gare.
Je suis allé m'acheter un dildo à vapeur.
Non mais t'as pas du tout envie d'y rentrer quoi, c'est glauque quoi.
Non.
On t'a vu.
Mais du coup je rejoins Arwen parce que même sur effectivement bah, même en province j'ai vu il y a des boutiques où c'est ultra smart, mais genre c'est pas effectivement le nord de Paris, Pigalle et compagnie. c'est des dildos genre avec des composants, des matériaux ultra, enfin limite nobles et tout, en chromé, etc. Enfin, c'est la classe, quoi.
Bon, matériaux nobles.
Oui, bon, ton truc coûte 200 balles et c'est juste un sextoy, mais ouais, non, ça en jette un petit peu. Ah, c'est autre chose que les sous-vêtements bonbons, quoi.
Bah, en tout cas, il y a de plus en plus, moi je trouve, de boutiques de sextoy. Sans forcément, enfin, je veux dire, avant, c'était concentré par quartier dans les villes. C'était souvent les quartiers, ouais, les quartiers des gares, ouais, très souvent. À Paris, on avait Pigalle. Ouais. Maintenant, ça se développe de plus en plus. Et je veux dire, il y a vraiment de moins en moins de honte. Il y avait même eu à Paris tout un débat parce que c'était vers Châtelet. Ils ont ouvert un sextoy juste en face d'une église. Et je sais plus dans quelle rue c'était. Et au final, d'ailleurs, la paroisse a eu raison. Ils ont fait fermer le sex shop. Ouais.
Très étrange.
Scandale. Voilà. En plus, c'est un curé qui a inventé le siège vibrant. Quel foutage de gueule.
Alors, est-ce que vous avez une idée de combien pèse l'industrie mondiale du sextoy par an? En dollars.
Ah, en dollars par an?
Par an.
Bah, quelques milliards.
J'irais peut-être pas jusque-là.
Mais j'ai 3,5 milliards.
Ouais, Juan, tu dirais quoi?
Je sais pas, 1 milliard, 4.
Un peu moins, ouais.
Féminin. Après, il y a beaucoup de
marques. Moi, je dirais 2 pour être la Suisse.
D'accord, 22 milliards.
Oh,
22 milliards, donc c'est énorme, ça se porte super bien.
Ah bah oui.
C'est clairement une industrie qui ne connaît pas du tout la crise.
Aucune
et c'est une industrie qui se varie de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des sextoys, il y en a pour tous les goûts.
Oui.
Par exemple, toi, Ilia, je sais que t'aimes bien le luxe.
J'ai cru t'aimer, toi, t'aimes bien les dildos de 30 cm. Oui.
Mais alors, lâche ce micro aussi.
Donc, voilà,
t'aimes bien le luxe, voilà.
Je rappelle ça comme ça, mais
voilà, t'aimes bien les belles choses. Eh bien, tu peux t'offrir, si tu en as envie, le sextoy le plus cher du monde.
Il est 21 milliards.
Je suis sûr
qu'il
y a des marques de bagnoles qui font genre Maserati, doivent faire des sextoys, je suis sûr.
Il est en or blanc, il y a 117 diamants et il coûte 55 000 dollars.
Ah, c'est pas si cher.
Dans un registre plus rigolo, moi, pour le coup, la dernière fois où je suis allé dans ce genre de magasin, j'en ai vu un en forme de missile nucléaire et un en forme d'épi de maïs.
D'épi de maïs, ça c'est chouette.
Épi de maïs, je vois bien, missile nucléaire avec les.
Avec la, tu sais, la bouche de requin devant.
Oh, oh. Il y a également le fameux Rabbit, qui est un des plus connus.
Absolument. Voilà. À cause de Sex and the City.
Et oui, Sex and the City, c'est vrai,
je crois, qu'ils
en parlent énormément.
À cause de ce truc en particulier, ouais.
J'en ai jamais entendu parler. Un truc en forme de lapin.
Donc c'est aujourd'hui considéré comme étant le sextoy le plus performant.
Ah, performant?
Ouais. Parce que
clitoris. Ou répandu.
Ouais. Parce qu'il y a un petit lapin au bout.
Exactement.
Ouais.
Ah. Ok.
Et en fait,
le quoi?
Je t'expliquerai, on pourra en parler si tu veux.
Et en fait, c'est une invention japonaise et la forme du petit lapin vient du fait que les industries japonaises avaient interdiction de produire des objets à caractère sexuel dans les années 80 et donc eux ils ont voulu détourner en disant mais pas du tout, on fait des lampes en forme de petit lapin.
Elle est un peu bruyante ta lampe quoi.
Des lampes qui font pas de lumière et qui vibrent.
Et donc du coup, ils ont fait des petits lapins.
Non, ils font de la lumière, voilà.
Et du coup, le canard, ça vient de là aussi?
Ah, je me suis pas du tout renseignée sur le canard, je suis désolée.
Le canard, c'est un peu ce qu'on disait en blaguant tout à l'heure avec Juan. Est-ce que ça serait pas un peu comme les masseurs pour la nuque, les machins qu'il y avait sur la redoute?
Ouais. Masseur de visage.
Voilà, non, ce super masseur de joue. Et je crois que récemment, ça s'est relancé un petit peu sur de trucs un peu cachés.
Bah alors, ça, malheureusement, pour les canards, je peux pas trop vous le dire. Je me suis pas renseignée, j'y ai pas pensé. Par contre, il y a également, pour tous les mangeurs de quinoa qui nous écoutent, il y a également des...
La gratuité.
Vas-y. Il y a des sextoys en carottes. Allez.
Non, des gonichets bio. Voilà. Mais je dis pas, moi je trouve que l'initiative. Non, oh, mon dieu, quelle horreur. Non, de houmous. Non. Non, je trouve que l'initiative, elle est pas mal. C'est-à-dire que dans la plupart des sextoys aujourd'hui, il y a pas mal de saloperies qui nuisent pas mal au corps. Vous savez, c'est un petit peu comme le même problème que les tampons. J'ai le nez bouché, je suis désolée.
Oui.
Je n'en peux plus. J'en ai marre de ce rhume qui ne passe pas. Mais non, j'ai même pas envie de me moucher, il est juste bouché. Voilà.
Oui, donc avec le rejet toxique.
Exactement. Et donc, il y a notamment une... comment dire, pas une matière.
Une substance.
Une substance, exactement, à l'intérieur, qui s'appelle le bisphénol A, qui se retrouve dans la plupart des sextoys, donc qui est dans le plastique, et qui est un perturbateur endocrinien, donc qui nuit aux hormones et à la fertilité.
Ça dégomme la flore, frère.
Exactement. Oh, et donc ça, c'est dans la plupart des sextoys. Et donc, on a pas mal de sextoys bio qui proposent des plastiques sans bisphénol A. On en a parfois qui sont faits en plastique recyclé, également. Pourquoi pas, fallait y penser.
Oui.
On a notamment la marque irlandaise Earth Angel, qui fait des godemichets en plastique recyclé. Et moi, ce que je trouve assez rigolo, c'est que pour être parfaitement écolo, il fonctionne pas ni à pile ni à batterie, il fonctionne à manivelle.
Enfin, ouais, il y a toujours un effort.
Triste. tristesse.
En fait, il faut pédaler la manivelle pendant 4 minutes et ensuite il trempe pendant 30 minutes.
Ah, bah c'est génial.
Voilà, donc c'est 4 minutes
pendant
30 minutes.
Attends, tu viens de dire il trempe pendant.
Il tremble. Mais non, il tremble. Oh, mais arrêtez de me faire dire ce que j'ai pas dit, flûte.
Je suis d'avril.
Flûte. Oh.
Et il y a également.
Et donc, le sextoy.
Et il y a également des sextoys solaires.
Ouais, c'était ma deuxième question. Le solaire, ça s'est développé, ouais.
Oui, il y en a. Donc,
tu le mets sur le rebord de la fenêtre avec Gérald.
Voilà, c'est une marque anglaise, tu le mets sur ton balcon, comme ça, pouf. Et ça s'appelle Babeland. Mina, si tu veux aller voir, je te sens bien intéressée.
Non, ça va, je vais passer.
Mais Babeland, voilà. Notre...
Mais
tu es en train
dit,
de noter sur ton portable.
Bah, bien sûr, je note sur mon thème, parce que réchauffement climatique, énergie solaire, tout ça, c'est bon.
Et enfin, pour tous les fans de fantasy, parce que eux aussi ont droit à la masturbation.
Le sextoy Gandalf.
Ben on est, on
l'énergie
est
elfique.
Tellement pas loin, je t'assure.
Ah ouais. Le cock ring unique.
il y a une marque que je ne connaissais pas du tout. J'ai pas du tout la prétention de connaître toutes les marques de sextoy.
Tu n'es pas du tout actionnaire.
Mais voilà, mais qui s'appelle Bad Dragon.
Non.
Habile.
qui a été créé en 2008. Et en fait, ils font des sextoys en forme de dinosaures, de dragons, d'orques.
C'est Denver.
Évidemment. L'orque comme sauver Willy ou l'orque
L'orque, je pense, comme genre, Donald Duck ou le Seigneur des Anneaux. Quoi.
Pas envie de se masturber avec ça, quoi.
Bah, déjà avec un dauphin ou un canard.
Et également en forme de tentacules, enfin, de ce que j'ai pu voir sur internet, je suis allée voir des images et également des trucs visqueux, fluo, bizarres. Voilà.
Ton historique doit être tellement fou.
C'est exactement ce que
j'allais dire. J'ai passé plus de temps à supprimer des choses dans mon historique qu'à créer cette rubrique, clairement. Et en fait, dedans, ils proposent, et alors là, Elias, je sais que tu vas adorer, j'attends donc que tu aies fini de boire ta gorgée, tu as bien avalé,
allez,
c'est bon, voilà.
Aïe. La tête d'Elias.
J'ai réussi à me cogner.
Ah mais ce sujet me perturbe beaucoup, mais vas-y.
En fait, dans ces sextoys de Bad Dragon, on peut mettre des tubes d'éjaculat.
Ah oh.
L'éjaculat, cette matière bien connue.
Voilà. Oh. Donc ce petit liquide blanc qui, au bout de 20 minutes en action avec le sextoy, sort du sextoy.
Miam miam.
Chers auditeurs, j'espère que vous avez pris un petit déj avant de prendre le métro ce matin.
Ah, putain de Dieu.
Et c'est aromatisé, c'est quoi c'est...
Donc
oui, c'est goût petit filou.
Les vraies questions.
En fait, on met des petits filous. Et puis...
donc voilà, maintenant vous pouvez voir, enfin en tout cas vous savez
sentir,
que
toucher,
tout... perdu mine,
goûter.
Mina, je vois que ça a l'air de vraiment te passionner cette marque-là. Je te rappelle, ça s'appelle Bad Dragon. Voilà, t'as baddragon.com.
Comme ça.
Donc,
écoute, voilà. Et donc, voilà, maintenant vous savez que tout est possible en matière de sextoy. Il y en a pour tous les goûts. Pour ceux qui ont envie, moi je vous recommande de tout essayer. Je vous déconseille juste une forme de sextoy.
Le modèle Maximator qui vient sur une perceuse.
Non, c'est le sextoy que je dirais à la façon de Cléopâtre. Et donc, en fait, on sait que Cléopâtre. Elle avait inventé un sextoy. Et donc, tout
ça le Jules César.
Non, c'est un vibromasseur en papyrus. Alors, comment le faisait-elle vibrer? Eh bien, elle mettait des abeilles dedans.
Oh, c'est une bonne idée, ça.
C'est le sextoy du risque.
Ouais, si, je me touchais avec une tarentule. Non.
Voilà.
Sextoy du risque.
Donc,
c'est vrai. La dernière chance.
Donc, eh bien, à bon entendeur, amusez-vous bien. Et Elias, je suis ravie de t'avoir mis d'aussi bonne humeur. Tu te tiens le ventre, on dirait Napoléon Bonaparte sur ses grandes toiles, là.
Ah, mais je suis horrifié.
Oh, il n'y a pas de mal à se faire du bien.
Alors, c'était chouette, hein, mais... En fait, il y a deux trucs qui me font peur. C'est que déjà, les gens vont vachement loin au niveau de l'imagination. Et le deuxième truc qui fait peur, c'est que... Bah, on sait très bien que c'est pas fini, quoi. Ils vont aller encore plus loin que ça.
Mais c'est très bien, il faut être créatif.
Non, attends, encore plus loin que le dragon dildo qui te balance de la sauce blanche.
Enfin, désolé, le pire c'est que
moi, j'attends le Gandalf. J'attends des sextoys Lovecraft.
Mais non, des capotes Gandalf. Vous le passerez pas.
Marketing, ma gueule.
Magnifique. Avant de passer au sujet suivant, je pense un truc que j'ai oublié de dire juste avant. En fait, bah, on vous avait dit qu'on bricolait un petit studio. Et en fait, là, pour la première fois, on enregistre
dans
le nouveau studio.
Qui est très très cool.
On fera un petit live à l'occasion pour vous montrer.
Ouais, on vous montrera les locaux et tout. Ouais. Déjà, on va faire une petite photo pour vous partager ça. Mais on est assez content. Il y a de la place. On est bien.
Ah, on est chill. Là, on est
nouvelle table.
On est limite allongé.
Il y a de la charcute sur la table.
Il y a des sextoys. Il y a
plein de trucs. Camille nous a ramené quelques échantillons. Donc voilà, ça c'est chouettos. Et là, on va pouvoir passer au sujet de Mina.
Absolument.
Tout à fait.
Alors,
Donc moi, je vais vous parler du réchauffement climatique aujourd'hui parce que c'est super à la mode. On l'entend à toutes les sauces, entre les politiques, les artistes et les scientifiques.
Et Donald Trump.
Et Donald Trump, mais je vous parlais pas trop de Donald Trump, désolé.
C'est cool, c'est cool.
Du coup, j'avais envie de voir un peu ce qui se dit, ce qu'on nous raconte vraiment et ce qui est vraiment court ou pas. Donc, j'ai cherché un peu les cours d'histoire du climat. J'ai pas trouvé grand-chose, donc s'il y a des auditeurs parmi nous qui sont un peu là-dedans, bah, n'hésitez pas à vous manifester.
Oui, si quelqu'un est climatologiste et veut passer nous voir à l'occasion, ce serait avec plaisir, vous savez comment nous contacter.
Donc du coup, la Terre a quand même quelques 4,6 milliards d'années. Je crois que c'est important de définir le terme et le contexte du réchauffement climatique, puisqu'on n'avait pas le même climat à l'époque des dinosaures, où il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, et l'Arctique n'était absolument pas glacé. Au Moyen-Âge, période préférée de Camille, où il faisait quand même un peu plus froid, puisque la fin du Moyen-Âge correspond au début du petit glaciaire, donc il commençait quand même à cailler un peu au Moyen-Âge. Et à la révolution industrielle, qui correspond un tout petit peu plus aux températures qu'on connaît. D'ailleurs, à l'avenir, je propose que Camille commence à intégrer des bulletins météorologiques dans ses chroniques historiques pour qu'on se situe bien. Je trouve que c'est important de voir le contexte.
C'est pas bête, c'est une bonne idée, ça.
Mm-hmm. Oui, bien sûr.
Combien il faisait le matin quand on se levait pour aller fabriquer des sextoys?
Mais le pire, c'est que vous en avez strictement rien à foutre, je suis sûr.
Ouais, c'est
si,
vrai.
La température ou tes sujets?
Comment?
La température ou tes sujets?
De mes sujets?
Ah oui, effectivement.
Non, ils sont très bien.
Voilà.
Bon, tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, on se situe dans une période interglaciaire baptisée l'Holocène, qui a quand même à peu près 10 000 ans. Tout ça pour dire que j'ai pas ouvert le dictionnaire Larousse, mais que je suis quand même allée chercher la définition du réchauffement climatique, et que c'est défini comme une modification du climat de la Terre caractérisée par un accroissement de la température moyenne à la surface de la Terre. Donc ça veut à peu près tout dire et rien du tout. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi.
Moi j'ai une question, cette poutre est beaucoup trop basse. Est-ce qu'on a du recul suffisant pour dire que là actuellement on est en réchauffement climatique ou pas?
Alors, trop forte, c'était mon prochain paragraphe.
Ah putain,
c'est trop forte. Donc en fait, ce qui affole tout le monde, c'est pas tellement l'augmentation qui est en train de se produire. Parce qu'en fait, ils annoncent une augmentation de 1,4 à 5,8 degrés Celsius. Donc en fait, ce qui est vraiment affolant, c'est les répercussions qui peuvent y avoir. Si on ne modifie pas les modes de vie et de production, de consommation, tout ça. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ça a commencé à la révolution industrielle, ce réchauffement. Et donc les scientifiques ont confirmé que c'est bien l'activité de l'homme qui accélère le réchauffement climatique et non... le cycle naturel en fait de la Terre, parce que donc c'est cyclique, hein, les réchauffements, comme je vous disais, à un moment il faisait super froid, à un moment il faisait super chaud, mais ils disent qu'en gros ça va plus vite avec la révolution industrielle.
Avec nous.
Ouais, donc voilà, en gros le problème c'est pas qu'il fasse plus chaud, c'est qu'il fasse plus chaud à cause de nous, et donc on pète le cycle en fait.
Voilà, mais en fait c'est même pas tant l'histoire qu'on pète le cycle, le problème c'est que si on continue de péter le cycle, ça serait l'extinction de l'humanité, et c'est un peu juste le seul problème, donc ça serait, je crois, la 7e ou la 8e extinction. Donc c'est surtout ça en fait qui pose problème, c'est que nous on serait plus loin, tu vois. C'est dommage. Donc bon, bref, si tout ça vous intéresse, vous tapez sur Google histoire du climat, vous tombez sur une super freeze screen chronologique, comme en primaire, mais celle-là c'est juste sur le climat pendant 200 ans.
Celle qui est en forme de cercle là ?
Non.
Une freeze chronologique, c'est en longueur.
C'est en longueur.
D'accord, je confonds avec l'autre qui était en forme de cercle avec des pics qui a pas mal tourné.
Tu l'as même envoyé. Ouais, je l'ai envoyé, mais ça c'était de l'art en fait. Voilà, c'est de l'art contemporain.
On vous partagera aussi, c'est assez cool pour voir les variations de température sur les dernières années sur les différents continents. Donc on vous passera ça.
Voilà. Bon, tout ça pour conclure quand même que globalement, si ça se produisait, en gros, on aurait la fonte des glaces, l'augmentation du niveau des océans qui quand même recouvre 70% de la surface de la Terre, la disparition de certaines terres et des phénomènes météorologiques beaucoup plus violents. Je vous passe les détails sur les interrogations techniques et les contre-réactions positives et négatives, hein, tous les trucs un peu pompeux. pour vous dire que c'est quand même Stephen Hawking, lui-même qui a dit en novembre 2016 que l'homme avait encore un millénaire à vivre, et en fait au printemps dernier il s'est dit les gars, je me suis un peu planté, donc en fait on a plus qu'un siècle.
Ah ouais.
Voilà.
Putain, mais si on peut plus faire confiance en Hawking, ça.
Non, ça paraît plausible. Enfin, on voit vraiment une accélération au niveau climatique. Il y a quand même
un siècle, les gars, c'est nos enfants, quoi.
Non, mais un siècle, c'est même pas tes enfants. Attends, moi, je voulais fêter mes 127 enfants. Ça.
Ah oui, non, pas moi. Dieu m'en préserve.
Moi, je crois au transhumanisme. Je veux que mon cerveau soit dans un bocal.
Genre Hibernatus avec Louis de Funès.
Comme dans
Futurama.
Ah oui,
Hibernatus.
Oui, ma référence en matière de transhumanisme, c'est Louis de Funès, justement.
qui a fait beaucoup d'écrits d'ailleurs d'articles.
Absolument.
Bon, enfin, je voulais juste vous rassurer, dans ces estimations, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi les astéroïdes et les épidémies et la surpopulation, donc c'est pas juste le climat.
Ah, donc ça va, on va crever, mais pas que pour une raison.
Non, on va peut-être pas crever, parce que quand même, il nous a proposé une solution, il est sympa. Il nous a dit qu'il fallait qu'on aille colonisé une autre planète, et grâce à Juan, on sait que Elon Musk travaille déjà sur SpaceX.
Hey, pas mal.
Et oui.
Ouais, après, sur un siècle, ça me paraît compliqué.
Ouais, les ingénieurs, là, clairement, faut arrêter les RTT, faut enchaîner, là.
Mais non, tu sais, quand il y a de l'argent, les gens sont très motivés.
Cham, si tu nous écoutes.
Non, ce qui m'a toujours fait marrer avec ce truc-là, on parle de hausse du niveau des eaux, c'est que comme par le principe de civilisation, la plupart des capitales se trouvent au bord de l'eau, enfin des grandes villes, en fait, les cœurs névralgiques de l'évolution humaine, ce seront les premiers touchés par le réchauffement. Donc en gros, on aurait du mal à trouver une solution parce qu'on se retrouvait dans la... Enfin, non, je pars trop loin, vas-y, reprends, excuse-moi.
Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, même sans aller au bord des grandes villes, je crois que si tu prends l'exemple de Londres ou de Paris, c'est deux villes qui sont en dessous du niveau de la mer.
Oui, c'est ça.
Pour une partie de la ville. Donc dans tous les cas, c'est sous l'eau aussi, même quand tu vas pas bien loin, la plupart des grosses villes, elles sont dans des bassins. Oui. C'est vrai, on aime bien construire les villes sur des endroits de merde.
Tout à fait,
San Francisco sur une faille, Paris dans un trou.
D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, je sais pas si tu veux en parler, mais il y a récemment des articles qui sont sortis, ou ressortis, je ne sais plus, mais quelqu'un qui disait que le problème avec notre problème de consommation, etc., dans la société, c'était pas forcément le fait de consommer bio, ceci, cela, ou changer nos petites habitudes, mais c'était aussi de changer d'organisation, en termes plus large, et donc pas forcément se baser sur des états, enfin des cités-états, mais plus répartir la population sur tous les pays, etc., tout l'ensemble de la surface du pays, ce qui permettrait d'équilibrer à la fois les ressources, la consommation, les machins.
Ouais.
Et que du coup, ça me fait penser à ça, parce que plutôt que d'avoir une cité qui va faire crever 4 millions de personnes s'il est enseveli, bah, si on se répartit sur toute la campagne, etc.
Je crois qu'on a un appel de Captain Digression qui voudrait...
Alors, j'allais pas du tout en parler, mais je pense que l'idée est bonne, mais sur la pratique, sachant que par exemple, si la montée des eaux arrive, la France, il reste plus grand-chose, par exemple. Genre jusque la moitié
de la Franche-Comté.
Oui, non, je suis d'accord, effectivement, sur les cartes et les prévisions, la Franche-Comté est toujours là.
Et Paul
par contre, toute la moitié sud de la France est sous la flotte. Si vous comptez investir en immobilier, n'y allez pas.
Sans compter le berceau de la French Tech. Si on peut choisir une région qui change pas de pays tous les 40 ans.
Bah, la Franche-Comté, on est fidèle. Depuis Louis XIV, on est français. Avant, on était espagnol, et bim.
Fidèle ou vainqueur.
Et bim.
Vas-y,
on t'écoute, Mina, on est tous.
Non, mais je sais pas, vous étiez sur le débat de la Franche-Comté, donc je vous laisse, vous aviez l'air heureux.
On t'écoute, là.
C'est notre carte gratos, la Franche-Comté.
Ok, bref, tout ça pour dire que le changement climatique, c'est un sujet un peu touchy, qu'il est hyper rattaché à la politique, et moi, j'aime vraiment pas parler de politique, donc du coup, toujours pas de COP21, toujours pas de Donald Trump. Et à la place, je vais vous parler du vrai enjeu que les politiques ont, c'est-à-dire la business de la fonte des glaces. Donc... Tout ça pour vous dire, ouais, je tourne ma page, je suis désolée, je suis novice.
Non, c'est très bien.
Mais donc, avec la fonte des glaces, il y a tous les bouleversements écologiques qui arrivent et les nouvelles bactéries qui vont dégeler. L'industrie médicale se portera super bien si vous êtes là-dedans.
C'est
vrai
que là, ils sont un peu en galère en ce moment.
Nouvelles bactéries qui vont dégeler.
Bah oui, des bactéries qui ont été de la calotte glaciaire.
Dans les années 50, la trois quarts des films de science-fiction, c'était avec le réchauffement ou machin, il y a la calotte des glaces qui fond et ça libère des bactéries qui sont là depuis le Jurassique.
Donc des nouvelles maladies, genre Ebola puissance 12.
Celle-là même.
Tout à fait, mais c'est hyper sérieux dans les compagnies de réassurance et tout, ils bossent à fond là-dessus.
Imagine le chikungunya avec des turbo-moustiques du Jurassique.
Putain, quelle horreur. Ok.
Bref, il y a un vrai quid de la propriété des terres de l'Antarctique, qui fait quand même 13 millions de kilomètres carrés. Et c'est donc pas très grand, mais c'est déjà beaucoup. Et donc, en fait, ils ont constaté, le GIEC, c'est le groupe d'experts internationaux qui s'est amusé tous les étés de 79 à 2012 à mesurer la taille de la banquise quand elle est dégelée. Mmh. Et ils ont constaté qu'elle a perdu 11%, donc trois fois rien.
Vache.
C'est chaud.
Voilà.
Est-ce qu'on sait ce que ça représente en matière... Est-ce qu'on a une référence géographique pour les 11% de cadeaux glaciaires?
C'est genre deux fois la Suisse.
Si ça faisait 100 hectares, il y en aurait 11 qui seraient...
Merci.
n'hésite pas, hein, ça me fait plaisir.
Voilà, mais je crois que ça représente quand même 2 ou 3 millions de kilomètres carrés. Je veux pas m'avancer, mais dans ce que je me rappelle avoir lu, c'était à peu près ça.
C'est pas mal.
Voilà. Bref, parlons peu, parlons bien et parlons pépette. Ces petites terres glacées que tous les pays se disputent sont en fait des vraies mines d'or parce qu'il y a du pétrole à gogo, donc à peu près 13% des réserves mondiales et 30% de réserves de gaz. Il y a aussi des hydrocarbures, des minerais, des terres rares et en fait, il y a plein de petits trucs qui seraient super utiles pour développer plein de technologies. Vas-y, je t'écoute.
Donc, si je comprends bien, ça veut dire que globalement, dans ces glaces qui sont existantes pour l'instant, il y a des ressources, pétrole et gaz, et que globalement, si ça fond, ça va les rendre plus accessibles ou les libérer. Et donc, globalement, un état relativement malin dans le sens négatif du terme aura tout intérêt à le laisser fondre pour après pouvoir l'exploiter.
Exactement.
Ça pue, ça surpue.
Bah oui, c'est pour ça qu'ils prennent leur
temps. Est-ce que par état malin, tu parlais de la Russie ?
Ou d'autres, parce que je pense qu'on n'est pas parmi les pires, mais voilà, il y en a plein qui, pour des pépettes, seraient prêts à faire beaucoup de choses.
Ah bah nous, on est déjà bien au taquet, on fait partie des pays avec la Russie,
on a aiguisé
les
pioches,
États-Unis,
on
est déjà en train d'essayer de piocher. Mais même des pays comme la Norvège, qui ont une super belle image et tout, quand tu lis, que tu creuses un peu, tu t'aperçois qu'ils sont déjà en train d'essayer de se positionner aussi. Donc finalement, c'est la guerre un
c'est
peu
abominable.
De l'or blanc. Quoi.
Et puis en plus, c'est horrible parce que, si je dis pas de bêtises, le gaz et le pétrole, c'est des trucs qui pourrissent d'autant plus l'écosystème. Ce qui fait qu'une fois que ça sera libéré, ça va fondre encore plus vite. Enfin, c'est l'enfer, c'est une histoire sans fin.
Tout à fait. Et
il y a une fin, ouais. Mais elle est sans nous.
Ouais. Ah, je vois.
Exactement. Bon, du coup, il y a aussi la guerre pour la pêche parce qu'il y aura plus de poissons dans ces régions-là à pêcher par rapport à actuellement.
Les
parce
sushis
que
seront sauvés.
Exactement, les poissons vont se déplacer. Et en parallèle, on n'y pense pas, mais ça va libérer des nouvelles routes maritimes pour rejoindre le Japon depuis les Pays-Bas. Ça fait quand même un petit raccourci de 7000 km si on passe par le Canada et 8700 si tu passes près de la Russie.
J'ai l'impression d'écouter mes cours sur Christophe Colomb, quoi.
Ah bah écoute, j'ai essayé tu vois, de m'adapter.
Ouais, non, je vois ça,
tu vois,
mais c'est marrant.
Comme quoi, il n'y a pas que des côtés négatifs, on pourra aller au Japon plus facilement.
Et voilà. Tout à fait, si t'as envie de prendre le bateau, quoi.
Dans ta face, Greenpeace, allez.
Bref, et si on vit dans un monde d'amour, bah, certains pensent au côté positif parce qu'ils pourraient utiliser les nutriments qui sont dans l'eau douce des glaciers pour développer une nouvelle forme d'agriculture. Bon, moi je trouve que c'est un peu discutable. Voilà,
il
y en a qui disent que ça peut développer aussi plus de photovoltaïque parce qu'il y aura plus de surface de l'océan et donc tout le temps exposé au soleil, etc.
Après, vu ce qu'on fait sur le photovoltaïque, ouais.
Ouais, voilà. Après, bon, tout ça, ça aura fondu au plus tôt en 2030 et au plus tard en 2100. Donc, comme dans tous les cas, on sera tous morts, les gars. Il n'y a pas vraiment de problématique.
Allez, bisous.
Attends, je t'ai pas parlé d'art contemporain. Hein, parce que je t'ai quand même casé une rubrique art contemporain avec le réchauffement climatique.
Ça me fait très plaisir.
Je t'écoute. Si, ouais. Je me suis dit que c'était, tu vois...
Un hommage
à Juan, encore une fois. Il y a Olafur...
Nous, on sent le pâté, quoi.
Ouais, et... bah ouais.
Désolé, j'ai mis de l'histoire et tout quand même. Ouais, tout ça pour dire que l'artiste islandais,
je pense. Hein.
Non, je voulais dire islandais-danois, ça marche, non ?
Islando-danois,
merci. Olafur Eliasson, dont vous avez peut-être entendu parler.
Ne me parle plus de ce mec.
Voilà, j'allais dire l'année dernière, suite à son passage au château de Versailles, avec Camille, on connaît bien, on adore. Bref, il crée des installations, en utilisant des éléments comme l'eau, la lumière, l'art, l'air, pour faire vivre son expérience et inviter à la réflexion sur un sujet souvent lié à l'environnement quand même.
Heureusement qu'Hicham n'est pas là.
Bref, dans une interview récente, il expliquait comment l'art peut être un moyen pour sensibiliser les personnes aux enjeux environnementaux et les noyer, sans les noyer dans une tonne de données chiffrées et graphiques, avec par exemple son œuvre intitulée Ice Watch, qui était installée à Copenhague puis à Paris en 2015. Et du coup, il mettait carrément des blocs de glace venus de ton endroit préféré, Camille, le Groenland. Où en fait il invitait les gens juste à venir toucher, voir en combien de temps ce bloc de glace fondait dans une métropole, etc. D'accord. Bref, son seul but, c'est vraiment juste de créer un lien et du questionnement et de faire des initiatives.
Il y a un autre artiste qui avait fait un truc dans le genre aussi dans la cour du musée du Louvre. Ils avaient fait une statue anthropomorphique d'un gars qui était assis en glace et, pour regarder à quelle vitesse il fondait.
Je pense que c'est un sujet facile. Je veux pas dire que je suis pas
artiste,
donc je
prétends
rien. Non,
c'est assez facile. Mais ça a peut-être été vu par plus de monde parce que Versailles, c'est en banlieue et vous savez, les Parisiens et la banlieue.
Ouais, tout à fait.
Non, mais là, c'était pas mal. Il avait fait un sol dans un bosquet qui s'appelle le bosquet de la colonnade. Il avait mis de l'argile. Et je sais pas si tu t'en rappelles. Et
oui, tout à fait, très bien.
Il avait laissé, en gros, le sol de l'argile craquer.
Mais ce que tu ne savais pas, c'est que ça venait aussi.
Ça venait
du Groenland. Non, d'Afrique, mais non, ça venait du Groenland. Ils avaient galéré à la faire venir.
D'accord, ok. Mais là. Moi, ce dont je me rappelle, c'est que tout le monde disait « Ah, mais pourquoi vous avez laissé cet endroit ouvert alors que le sol est en travaux ?»
C'est une œuvre. Voilà.
Exactement, ça fait partie d'un triptyque.
C'est une œuvre d'art, madame.
Voilà. Je crois que je vais vraiment finir par créer un jingle digression.
Enfin bon, moi je vais conclure mon sujet en vous invitant à mettre une super grosse croix verte sur votre calendrier pour la journée internationale du climat, si ça vous tente, mais surtout la journée la plus cool de l'année, c'est le 27 février, parce que c'est la journée internationale de l'ours polaire.
Oh. Et on fait quoi pour la journée internationale de l'ours polaire?
On met des manteaux en peau d'ours.
On boit du Coca-Cola.
On mange une glace.
Donc le message écolo, mais pas trop.
Mais les cassages écolo, c'est... Laisse ton congélateur la porte ouverte. Merci Mina, c'était parfaitement formidable.
Et bah t'es la première auditrice à nous avoir fait un sujet, était bien bien chouette. Donc, vu que Karim n'est pas là pour critiquer mes gentillesses.
Ça me fait très très plaisir.
C'était vachement cool.
Et que Hicham n'est pas là pour critiquer l'art contemporain.
On est bien en fait là, non? Je reviendrai de Londres tous les week-ends, ça me fait plaisir.
Shots fired.
Non bah c'était coolos. Bah du coup moi je vais vous parler de Rastafari.
Oh dear.
Yeah. On mange jamaïcain, on chante jamaïcain, on est des jamaïcains.
Haïlé Sélassié, le pouvoir de la Trinité. Children,
yeah. Ah ça m'a fait beaucoup de mal quand j'ai fait ce jingle parce que j'ai dû couper Bob Marley et c'était beau, c'était beau. Donc je vais vous parler du mouvement Rastafari, Rastafarisme, etc. Donc en fait je vais commencer l'histoire par la Jamaïque forcément parce que c'est issu de là et je vais vous parler du début de la Jamaïque en fait. Déjà la Jamaïque ça fait 11 000 km², en fait c'est plus petit que l'île de France, donc c'est vraiment pas si grand que ça. Les premiers habitants en fait c'était des tribus qui venaient des alentours, donc Venezuela, Guyane, etc. Et les premières populations noires sont arrivées avec la traite des noirs, donc l'esclavage, etc. Donc c'était pas joli parce qu'en fait, voilà, en fait la Jamaïque c'était une étape pour accéder aux Amériques en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de débarquements dessus et il y a une population qui s'est créée par ça. Pour faire très rapidement, la Jamaïque s'était colonisée par l'Espagne, puis l'Angleterre, et l'esclavage a été aboli en 1834 et l'indépendance a été déclarée en 1962. Donc il y a eu pas mal de colonialisme même sans l'esclavage. Avant de partir sur l'histoire rapidement, qu'est-ce que vous pouvez me dire des mouvements Rastafari, des Rastas, quelques mots-clés qui vous viennent à l'esprit?
Dreadlocks.
Ouais.
Rome. Plage.
Rome.
Rome.
Je sais pas.
Ah, du rhum et boisson.
Ouais.
Ah. Alors, ni rhum ni
non,
plage.
Non, pas rhum.
Ah, ni rhum ni plage.
Ils ne boivent pas d'alcool.
Ah bah oui, c'est vrai.
Ah non.
Cool.
Les autres, non. Ça vous parle. Ok, ça vous parle.
J'ai envie de dire bobsleigh, mais...
Putain. Personne n'a envie de dire gros joint.
Ah
ouais,
si,
non,
ganja.
J'ai tellement pensé mais...
Ganja, mais
Turbo
si.
Ganja.
Ah, mais
honnêtement, je veux pas rentrer dans le cliché, mais à Londres, j'habite dans le quartier afro-jamaïcain et j'avoue que tu marches dans la rue, tu peux être défoncé juste en faisant des tours de pâté de maison.
Mais oui, mais parce que la ganja est importante pour eux, donc je vous en parlais aussi. Mais bon, je vois que c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à dire justement sur ce sujet. Alors, je vais commencer par l'histoire, ce qui a mené à la création de ce mouvement en fait. On va commencer dans les années début du XXe siècle avec Marcus Garvey qui avait un mouvement en fait qui s'appelait, qui était résumable par Back to Africa. En fait, il prônait le retour des Noirs américains ou de la région à l'Afrique en fait. Et c'était une des premières voix de la cause noire. Il s'est exilé aux États-Unis pendant un temps et il prônait un renouement avec les racines africaines, etc. Et notamment avec l'Éthiopie. Alors pourquoi l'Éthiopie? Peut-être que Camille peut nous répondre. Qui est une des spécificités de l'Éthiopie à niveau historique.
J'ai l'air d'avoir très envie de répondre.
Camille s'en fout.
Non, je n'en ai strictement aucune
Super.
Idée.
Super.
Désolée.
En fait, l'Éthiopie, elle fait partie des pays qui ont été pas ou peu colonisés. Des rares pays qui ont été pas ou peu colonisés.
D'accord.
Donc il y a un questionnement au niveau de l'Éthiopie parce que l'Italie de Mussolini prétend l'avoir colonisé. Mais en fait, apparemment, il n'y avait que 10% du territoire qui était occupé par l'armée italienne. Donc c'est un des rares pays au monde et d'autant plus d'Afrique à avoir résisté au colonialisme. Donc,
ça, si on parle de route, c'est vraiment là-bas que ça se passe. Quoi.
Mmh. Ah ouais, bah vous allez voir, c'est vraiment très très important dans le mouvement Rasta à l'Éthiopie. Marcus Garvey, il avait aussi une prophétie. Il disait en fait, il a prédit l'arrivée d'un roi noir qui allait guider les populations, etc. Donc je vais vous lire un passage qui exprime cette prophétie. Il disait « Laissons le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob exister pour la race qui croit au dieu d'Isaac et de Jacob. Nous, les Noirs, croyons au dieu d'Éthiopie, le dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le dieu de tous les âges. C'est le dieu auquel nous croyons et nous l'adorerons à travers les lunettes de l'Éthiopie. » Donc il a prédit qu'il y a un roi qui arriverait en Éthiopie et qui guiderait les Noirs. Et effectivement, cette prophétie s'est réalisée puisque Rastafari Mekonnen devient Negusa Nagast, donc roi des rois, et est couronné le 2 novembre 1930 sous le nom de Haile Selassie, qui veut dire puissance de la Trinité.
Attends, mais qui est couronné? J'ai pas compris.
Un mec qui s'appelle Rastafari Mekonnen, qui est devenu empereur.
Qui est un vrai monsieur, ils ont pas pris une statue et ils ont mis des colliers de
fleurs. Non, c'est devenu en fait, faire rapidement l'histoire, je crois que c'était le cousin de l'ancienne reine ou l'ancienne chef de l'empire. Et du coup, il a pris sa suite en 1930 et donc il a été nommé Negusa Nagast, donc roi des rois.
D'accord.
Et son nom c'était Rastafari et son nom de couronné c'était Haile Selassie. Donc il avait plusieurs titres, roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, élu de Dieu, lumière du monde, etc. etc.
Ça fait long sur l'enveloppe pour lui envoyer une lettre.
Ouais, c'est chiant.
C'est pas mal. Il disait d'ailleurs
92-400.
Éthiopie, allez. En fait, il disait aussi être descendant de Salomon et de la reine de Saba. Donc, en fait, il s'attribuait une descendance un peu divine, biblique. Donc, c'est ce qui lui donnait aussi son pouvoir en Éthiopie.
Lève ta main si t'as pensé à Francky Vincent quand t'as entendu reine de Saba.
Non. Moi, c'était plutôt Julien Clerc, mais...
La vache.
Pardon. Chacun ses références.
Rappelle-moi de plus jamais t'interrompre.
Bah oui, il fallait pas. Donc revenons sur ce couronnement en fait. Mais en fait, c'est la prophétie de Marcus Garvey qui se réalise. Et ça va causer le retour de pas mal de Jamaïcains au pays parce qu'il s'est exilé aux
États-Unis. En Éthiopie donc.
Aux États-Unis ou aux alentours. Et ils sont revenus en Jamaïque.
D'accord.
Donc ça va être le développement du mouvement Rasta. En 1940, donc une dizaine d'années plus tard, il y a la première communauté Rasta qui a été créée, donc ça s'appelait Pinnacle. Ça a été créé dans les montagnes. En fait, à la fin, il y avait à peu près 2000 personnes. Et globalement, ils vivaient d'amour, de ganja, de méditation, etc. Donc c'était inspiré des ashrams indiens.
Pinnacle, pour les non-initiés, ça veut dire le summum.
Le sommet.
Le pinacle, c'est un mot français finalement
aussi. Oui.
Malheureusement, cette communauté elle a vécu que 14 ans puisqu'elle a été détruite en 1954 par la police qui supportait pas de voir une communauté noire vivre librement, simplement comme ça. Mais en fait, c'est ça qui a permis la prolifération, le partage de cette culture rasta parce qu'en fait, au lieu de rester dans les montagnes, ils se sont mêlés à la population et c'est ce qui a permis de partager ce mouvement. Donc initialement, ils étaient assez mal considérés. On les appelait les rude boys, les mauvais garçons globalement. Et petit à petit, en se mêlant à la population, ils ont fini par être acceptés. Maintenant on va voler un petit peu plus tard dans les années 60, et les années 60 c'est vraiment indépendance et reggae globalement. Alors déjà on va commencer par Haile Selassie qui a fait sa première visite officielle en Jamaïque. Donc le mouvement est né en début 20e siècle, la prophétie s'est réalisée en 1930 et il vient pour la première fois qu'en 1966, donc il a mis le temps et apparemment c'était un événement absolument ouf, donc il y avait des milliers de personnes qui étaient venues l'acclamer, etc. Et toutes les personnes présentes, même les journalistes, etc., s'accordent pour dire que c'était très chargé d'émotions et que la pluie s'est arrêtée quand l'avion a atterri.
Les journalistes sont d'accord sur le fait que la pluie s'est arrêtée.
Oui.
Quand le...
Après, c'est pas forcément un truc divin, c'est peut-être juste qu'il y avait plus de pluie.
Non, c'est pas forcément un truc divin.
Voilà. Il y avait peut-être plus de pluie qui devait tomber, mais voilà, apparemment, il y avait, t'imagines, de hasard en hasard, enfin, hasard plus émotion, ça crée un truc assez ouf. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fait Haile Selassie était considéré comme le messie en fait, une divinité sur terre par les Rastas, mais il s'est jamais vraiment prononcé par rapport à leur adoration en fait. Donc il les a pas contredits parce que ça lui donnait du pouvoir, mais toujours est-il que c'est un chrétien pratiquant, donc il avait du mal à accepter leurs croyances. Il a quand même donné des terres aux Rastafari. Donc il aura donné des terres en Éthiopie, donc au sud de la capitale, mais il a quand même envoyé son église en Jamaïque pour convertir plein de gens. donc l'intévar.
Bois de l'eau, mec, c'est pas mieux, je sais pas. Il pense pas toujours à respirer.
Désolé. Donc on repart sur l'Éthiopie. En fait, comme on disait, l'Éthiopie ça a été décrit par la première prophétie comme un peu la terre sainte des Rasta. Donc ils ont appelé ça Zion. Donc ça, est-ce que ça peut vous faire penser à autre chose?
Ion. Like a lion.
Ouais.
In Zion, Babylon. Finalement.
Zion, Sion, en fait, c'est comme dans la culture
judéo-chrétienne,
la terre promise, en fait. Ouais. Et malgré le fait que ce soit leur terre promise, leur intégration est assez compliquée, parce qu'il a fallu attendre jusqu'à l'été 2017, donc il y a un mois à peine, pour que l'État éthiopien décide de donner des cartes d'identité aux Rasta qui sont en Éthiopie. Donc c'est une histoire qui dure encore aujourd'hui, c'est assez ouf. Là, on va continuer bah, effectivement sur l'indépendance de la Jamaïque. Là, on a parlé de, bah, de la venue du Messie, etc., qui a vraiment chamboulé les foules. Mais dans les années 60, il y a aussi eu en 62, comme je disais, l'indépendance de la Jamaïque. Et bah ça, en fait, à partir de leur indépendance, ils ont commencé à se construire, enfin, de construire leur culture, et c'est là qu'ont émergé des styles comme le ska, le rocksteady, et en fait, tout ça, ça a donné naissance, enfin, ça a permis de créer le reggae. Et le reggae n'est pas initialement lié à la culture rasta, mais ça a permis de véhiculer ces messages, et c'est notamment pendant la visite de Haile Selassie que Bob Marley est devenu rasta. Voilà, en 1966. Ça me permet de continuer sur... on va parler rapidement de la religion et de la philosophie pour les Rastas. Alors, comme disait Bob Marley, être Rasta n'est pas une religion, c'est une réalité. Et ça, c'est vrai, parce que c'est à la fois une philosophie et une religion, sachant qu'il y a une étude récemment, enfin, il y a sur les quelques dernières années, qui disait qu'il y a à peu près 10% de la population jamaïcaine qui se déclare Rasta. Donc c'est pas énorme, sachant qu'il y a 2 millions de personnes, ça fait 200 000 personnes, c'est assez peu, sachant qu'il y a à peu près 1 million de Rasta dans le monde. Donc voilà, vous voyez un petit peu, en fait c'est un mouvement qui est beaucoup plus présent en dehors des terres originelles du rastafarisme qu'à l'intérieur. Au niveau de la religion, en fait, c'est assez intéressant parce que il y a beaucoup de références bibliques, notamment pour leur dieu, en fait. Le dieu Rasta, c'est Jah. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça dans les chansons, etc.
Oui.
Jah ou Jah Rastafari, en fait, c'est un dérivé de Jéhovah, qui désigne Dieu dans la Bible.
Carrément.
Ouais. Ah, et c'est pas fini. Il y a le lion de Juda aussi. En fait, c'est présent donc dans la Genèse, dans la Bible. Et le lion de Juda, c'est aussi l'emblème de la royauté éthiopienne, et on le retrouve aussi sur le drapeau Rasta. Donc le drapeau Rasta, c'est les couleurs du drapeau éthiopien plus le lion de Juda. Et le lion de Juda, en fait, ça présente des hautes qualités humaines pour les Rastas, donc courage, dignité, noblesse, souveraineté, résistance, etc. Donc c'est vraiment le cœur de leur mouvement. Et aussi, on assimile la crinière du lion au dread des Rastas. Donc voilà, rapidement, ça peut... Il y a un petit lien avec ça. Donc si on part sur les dreadlocks, dreadlocks, une rapide traduction, notre ami Juan.
Dreadlocks, des nœuds d'enfer.
Ouais, des mèches terrifiantes, globalement. Et là aussi, on a un parallèle biblique, un personnage biblique, quelqu'un avec des longs cheveux.
Ah, Samson.
Oui. Donc il y a un parallèle avec Samson qui en fait suivait des vœux nazarites. Des vœux nazarites, donc c'est lié au livre des Nombres, le quatrième livre de la Bible, qui en fait les personnes qui se dévouaient à Dieu laissaient leurs cheveux pousser tant qu'ils se dévouaient à.
Tu tiens ta force de tes cheveux en fait.
Voilà.
En gros.
C'est donc, là que sont inspirés d'ailleurs les Dothraki pour les amateurs de Game of Thrones.
C'est ça. Exactement.
Et Dragon Ball, non,
le Super Saiyan 3 est inspiré de Samson.
Non, mais c'est pas impossible qu'il y ait une référence. Donc l'origine en fait des dreads est assez incertaine, mais voilà, ça c'est une des explications, cette explication biblique. Il y a aussi des origines de coiffures portées par des Africains ou des Indiens. Et globalement, le port de dread est pas obligatoire pour les Rastas. L'important c'est l'esprit, le fait de se sentir Rasta, et certains qui portent pas du tout les dreads, mais c'est quand même un fait assez courant. Une autre référence, on en parlait, c'est Zion ou Sion, donc c'est leur terre promise, que ce soit littéralement donc pour l'Éthiopie ou métaphoriquement, pardon, donc l'émancipation, la liberté, etc. Alors, on en parlait tout à l'heure, dernière référence biblique, c'est une habitude des Rastas dans l'imaginaire, etc.
Fumer les gros rouges,
la ganja. Et puis, ils sont assez malins, je sais pas, mais en fait, ils trouvent des explications bibliques un peu partout. Là, c'est le psaume 104-14, je sais pas comment ça se dit.
Voilà,
psaume 104-14. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture. Donc, les plantes pour le besoin de l'homme, les mecs se sont dit, on fume des joints.
Oui, enfin, il y a le mot nourriture après.
On peut pas tout sélectionner.
On s'arrange.
Ils confondent une pousse d'épinard fleurette avec un moins, je crois.
Alors oui, mais je sais pas comment c'est arrivé, mais en fait, pour eux, la signification étymologique de ganja, c'est feuille de Dieu. Et ils considèrent que c'est l'herbe, c'est une plante qui a été créée par Dieu pour soulager les Rastas. Et en fait, ils la consomment pour méditer et pour se rapprocher de Dieu, donc pour se rapprocher de Jah. Donc ils fument la ganja dans des spliffs, qui sont des
ouinges.
Voilà, des gros pétards, et ou dans un chalice. Ouais, c'est une espèce de pipe à eau en fait, le narguilé, la pipe à eau, un truc un peu portable.
Bah, d'ailleurs, ça doit dériver de calice en fait. Chalice, non ?
Oui, complètement. Encore une référence biblique, hein, totalement.
Un Christ d'hostie.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, ah, tous les Jamaïcains fument des gros joints et tout. Non, c'est toujours interdit là-bas en fait, c'est très réglementé. il a fallu attendre 2015 pour avoir une dépénalisation des consommations personnelles, enfin des petites consommations personnelles. Il y a des faibles amendes, hein, 5$, c'est pas la mort.
Ça va.
Ouais, c'est assez léger. Par contre, on a le droit de faire pousser chez soi jusqu'à 5 plants et l'herbe médicinale est autorisée. Donc c'est quand même à la cool. Donc là, c'était plutôt le côté religieux. Et là, on est parti du côté philosophie. Comment on le dit, en fait, c'est... Globalement, c'est parti de l'oppression. Et le but, c'était de libérer les peuples noirs. Donc en fait, c'est la révolution pacifiste des peuples noirs. Donc non seulement les libérer de l'oppression qu'ils subissaient, mais en plus leur permettre de retrouver une culture et d'assumer cette culture. Donc en gros, même après le colonialisme, par exemple, ils n'avaient pas forcément accès à des ouvrages d'écrivains noirs, de poètes noirs, d'artistes noirs, etc. Donc le fait, c'est le principe de renouer avec ses racines et de, bah, de, d'assumer, d'être fier de leurs racines en fait. Donc c'est, je trouve ça intéressant, ça n'a pas l'air de vous...
Si, 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 moi j'apprends plein de choses.
Soit vous êtes pendu à mes lèvres, soit vous endormissez.
Je suis pendu à tes lèvres.
Vous endormissez. Endormez.
Pardon.
On s'endormisse.
Voilà, en fait, le, comme je disais, le but, c'est de pas, de, c'est l'appropriation de leur monde et le retour à la création. Donc ça, c'est en opposition avec le mode de consommation pur et simple. Et ça, c'est en opposition avec Babylone.
Le bobsleigh.
Non, avec Babylone.
Tout à l'heure, on entend bobsleigh.
Non, avec Babylone. Babylone, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la référence?
C'est le diable, c'est leur ville, c'est pas bien.
Ouais, en gros, Babylone, c'est le pouvoir malsain de manière générale. C'est l'empire occidental, c'est...
Le capitalisme.
Voilà, le capitalisme, la consommation à l'excès. En gros, c'est le symbole de l'homme qui contraint l'homme. Donc c'est mal. De manière générale, en fait, les Rastas, ils vont vouloir un style de vie beaucoup plus cool, respectueux des hommes, respectueux de la nature, etc. Donc ils ont un style de vie qu'on peut appeler Liviti. Donc c'est, si je peux résumer, c'est en gros le temple de Jah est notre corps. Donc vivre sainement, c'est offrir un temple digne de Jah. Donc c'est pour ça qu'ils vivent simplement. Et dans ce style de vie, en fait, il y a un régime alimentaire qu'ils vont appeler Ital, donc I-T-A-L, qui est en fait un dérivé de Vital. Ils ont remplacé la première syllabe par un I, que j'expliquerai après pourquoi. Et globalement, il n'y a pas de règle fixe, mais le but, c'est de ne pas manger de viande, mais le poisson autorisé, pas d'alcool, beaucoup de légumes.
Pas de ne pas manger de viande.
Tiens, tiens,
ça,
c'est
pas.
Très tendance en
ouais.
Ce moment.
Globalement, ils ne mangent pas de viande et surtout pas de produits en conserve, etc. Donc c'est des...
Désolé, j'avais besoin d'un petit truc de fond. Continue.
Ok. Donc pas de viande, des choses simples. En gros, c'est produits naturels. L'idée, c'est d'avoir une communauté qui va survivre et vivre en accord avec la nature. Donc c'est assez intéressant, mine de rien. Et c'est vrai qu'ils partagent beaucoup. On parlait du Ital, et donc là je vais partir sur le patois rasta. Donc on entend plein de termes dans les chansons de réglé, voilà, etc. Le patois rasta, en fait, il est issu du créole jamaïcain. Et c'est intéressant parce que jusque dans leur façon de parler, on retrouve un peu leur philosophie, en fait. Par exemple, ils ont trois pronoms majeurs. Donc il y a le I and I. Mm-hmm. Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer ou...
Non.
Alors en fait, le I and I, c'est inclusif universel. Donc ça veut dire je, nous, on, etc.
D'accord.
Donc quand ils vont parler, ils vont facilement dire I and I do something. I and I think machin et tout. C'est pas juste moi, ça inclut l'ensemble, etc. Il y a aussi le I man. Donc c'est une façon plus personnelle de dire je. Donc là, ça n'inclut que la personne qui parle. Et après, il y a le Daman. C'est tu, il, elle. Ça désigne une personne extérieure.
D'accord.
De manière générale, le man, en fait, c'est utilisé pour le masculin, le féminin, le pluriel. Donc c'est assez simple à apprendre.
Ouais.
Donc, salut man, salut man, salut man. Voilà. C'est assez facile. Y a une dernière... une dernière habitude un peu notable qu'ils ont dans leur langage, c'est les upful sounds. En fait, pour eux, l'anglais, c'était une langue coloniale, en fait. Donc pour schématiser, c'était des mauvais souvenirs. C'était pas très très cool.
Ouais.
Donc ils ont pris l'habitude de découper les mots en anglais et de remplacer certaines parties pour que ça corresponde plus à leur philosophie rasta. Donc par exemple, si on prend le mot « dedicate », donc qui veut dire « se dévouer », etc.
Ouais.
« Dedicate », ça peut se découper en « dedicate », et « dead », c'est négatif, c'est pas bien. Donc ils ont remplacé « dedicate » par « livicate ».
Habile.
Voilà.
Oh, la vache.
On a « understand » aussi, donc « comprendre ».« Under ».«
Overstand ».
Ouais, c'est ça, bien. C'est
bah
ça.
La logique est pas compliquée à comprendre,
ouais,
finalement.
Ouais, oui.
C'est ça.
Tout ce qui est pas bien, tu rends ça bien.
Donc, au lieu d'être en dessous, on se penche sur quelque chose, donc c'est aussi humble, etc. Oppression. Un peu plus dur, mais.
Oppression. J'allais dire overation, du coup.
Oppression.
Non, justement.
Uprising.
Non, c'est l'inverse, parce que oppression, c'est censé être négatif. Up, c'est positif. Donc, on devrait pas faire passer ça pour du positif. Donc, au lieu de oppression,
Downration.
Downpression, c'est ça. Donc l'oppression, eux ils diraient downpression. Donc après il y a pas
c'est,
mal.
C'est un peu gratos quand même.
Ouais, mais c'est leur philosophie. Je trouve ça intéressant c'est que leur philosophie se retrouve jusque dans leur façon de parler en fait.
C'est comme si les gothiques au lieu de dire bonjour ils disaient mal jour quoi.
Bah ouais, mais si.
Mal nuit. Si les mal nuit ma gueule.
Si les gothiques avaient été oppressés pendant 200 ans, je dis pas.
Ok. Et, ok, je vais me cacher, c'est bon.
Non, mais c'est. Enfin bon, personnellement je trouve ça intéressant.
Moi aussi j'aime bien. J'aime bien croire que les mots ont. Un sens, enfin genre un pouvoir un peu positif quand tu parles quoi, c'est cool.
Bah c'est ça, et puis surtout, alors je, là je vais encore faire le je sais pas, le relou, l'intello, je ne sais pas, mais c'est intéressant parce
on
qu'en
va
fait
te dire.
Non mais je trouve ça cool parce que en fait justement ils expriment et ils se battent pacifiquement contre tout le malaise qui est juste de ce colonialisme etc, parce que c'est des populations qui sont issues de la traite des noirs en fait, donc c'est des centaines d'années de d'oppression justement qui sont combattues par ça, par l'esprit, et c'est super beau, je trouve, c'est super classe. C'est chouette, et il y a un dernier truc un peu plus rigolo, c'est des néologismes qui sont apparus. Comme on disait, ils sont contre Babylone, contre plein de choses. Notamment, donc il y a des nouveaux termes qui apparaissent. Par exemple, pour dire politique, ils disent politrix,
des magouilles.
Ouais.
Et pour système, vous avez peut-être trouvé, il est assez facile celui-là.
Pour système ?
Ouais.
Babylone, je sais pas.
Shitstem.
Ah.
Moi aussi c'est bien.
Ouais, c'est gratos. Je vais pas me faire des potes là chez Rasta.
Ouais voilà, bah, écoutez, moi j'ai bien aimé leur philosophie, puis c'est intéressant de voir que ça bouge encore maintenant.
Avec on ressemble un petit coup quand même.
Avec un petit...
On est obligé.
Allez.
Ah, il a été long celui-là.
Bah voilà, moi j'espère que ça vous aura intéressé un petit peu.
Écoute, déjà moi j'ai appris un truc important, c'est que le Rastafari ça vient d'une personne en fait.
Ouais.
Ça j'en avais aucune idée.
C'est une personne et c'est intéressant parce que c'est une religion moderne en fait. Ils ont déifié un mec qui est mort dans les années 70 d'ailleurs. Et maintenant il y a plusieurs courants, ceux qui considèrent que son côté divin a été a découlé dans ses descendances, et ceux qui se sont fait une raison, genre il est mort.
D'ailleurs, une dernière petite question. Est-ce que sa tombe est devenue un lieu de culte? Enfin, tu sais ça? Il est devenu quoi,
alors,
ce monsieur?
Mais ils l'ont
il a
fumé,
eu un...
gros.
Alors, ça, c'est super
il a
intéressant.
Eu un enterrement, en grande pompe.
Alors, ce qui est super intéressant, c'est que en fait, alors j'ai pas exactement les détails, malheureusement, j'ai pas noté ça, mais le mec est mort et en fait, il a fallu attendre une dizaine voire une vingtaine d'années. Non. Bon, mettons une dizaine d'années, pour avoir son enterrement en fait.
Ah bon ?
Il a été déclaré disparu, mort, etc. Mais il a eu une cérémonie que des années et des années après.
Pourquoi ?
Alors je saurais pas dire, il y a. Je sais pas si une des possibilités, mais déjà on sait pas s'il est mort ou pas, parce qu'en fait il y avait pas vraiment de corps quoi, genre je sais pas ce qu'ils ont fait comme cérémonie. Et un deuxième truc, c'est que les Rastafari pour eux c'était vraiment une divinité sur Terre, mais il est vraiment un caractère divin.
D'accord.
Et il y en a beaucoup qui croient qu'il n'est pas mort, donc par exemple une des chansons que j'ai mis dans le jingle, Jalive de Bob Marley. Où il y en a plein qui se disent, bon bah en fait il pose le doute de sa mort.
Ouais.
C'est un peu comme Jésus, sauf que c'est pas 3 jours, c'est une bonne période, mais voilà, il croit qu'il va se retrouver autre part, etc. Il y a des tribus Rasta qui considèrent que ça c'est aller vers sa descendance, donc ils vénèrent un de ses fils ou petits-fils. Voilà.
Habile.
Ok.
Cool.
Et ben merci. Bah, du coup, on va pouvoir aller sur le super fat subject.
Pas du tout.
Non, bon bah.
Non, moi je vais juste gentiment vous parler des sitcoms. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 million years ago, expansion started. Wait, you're there for you. Cause you're there for me too. Alors on commençait par remercier un monsieur qui s'appelle Nick McCaig pour les intros, parce que c'est un monsieur qui reprend tous les génériques de sitcom a cappella.
Merci.
Voilà. Si vous êtes curieux, c'est assez sympa ce qu'il fait. Donc les sitcoms, déjà, ça veut dire quoi, sitcom? C'est pas compliqué.
Comédie.
Sitcom.
Ah, s'asseoir et rigoler.
Non. Situation.
Ah, comique.
Comédie.
Ouais.
Comédie de situation.
D'accord.
Parce que finalement, ça reste du sketch, la situation comédie. Donc la sitcom, bah, c'est quoi pour vous?
Friends.
Bah, ouais. C'est un très bon exemple. Oui,
Seinfeld.
Friends, sitcom. Seinfeld.
Désolé,
Seinfeld,
moi je préfère les oldies.
Très très connu.
Sorry.
Bah tiens, tu fais le malin. C'est quoi la première sitcom? Déjà d'où ça vient la sitcom?
Rastafari.
Non.
Mina speak English.
Ah, la sitcom, ça vient de United Kingdom. C'est pas américain.
D'accord.
Contrairement à ce que croient beaucoup de gens. La première sitcom, bon déjà à la base ça vient du théâtre, hein, la sitcom, mais la première sitcom elle s'appelait Pinwright's Process. Elle date de 1946. Et
la vache, c'est méga vieux.
C'est méga vieux. En fait, la sitcom, on peut voir ça comme un mélange entre le théâtre et le cinéma et la télé.
c'est un peu un gros medley de tout ça. Donc ouais, on a eu Pinwheel Process qui à la base était une émission de radio anglaise qui est ensuite passée à la télé. Mais la première sitcom vraiment connue, c'était américain, ça s'appelait I Love Lucy et ça date de 1951. Donc c'est quand même pas tout récent. Alors, je vais vous poser une question assez simple. C'est quoi vos sitcoms préférés?
Toute époque confondue?
Toute époque confondue.
Allez, je vais en mettre 2-3. Je dirais Friends, okay. Brooklyn Nine-Nine. Mm-hmm. Et oui. Allez, on va mettre de l'animation parce que je veux dire que c'est la sitcom, les Simpsons.
En effet, les Simpsons sont une sitcom. Camille?
Friends aussi.
Ouais.
Je pense qu'on va tous se mettre. Après, je dirais Modern Family.
Ok. Et toi, Mia?
Moi, je dirais Friends aussi, évidemment. Et moi, j'aime bien regarder Suits. Parce que je suis une fille pas très drôle.
C'est une sitcom, Suits?
Bah, je sais pas si c'est une sitcom.
C'est pas tout à fait une sitcom. C'est plutôt une série qu'une sitcom. On expliquera pourquoi tout à l'heure. On oublie souvent, parce qu'on parle beaucoup de sitcoms américaines.
Et les tiennes.
On oublie souvent les sitcoms. Bon, j'ai pas vraiment de préféré.
Quelle
déchirure. Je suis pas un gros amateur de sitcom. Mais on oublie aussi les sitcoms françaises. On a une grande époque de la sitcom.
Ah bon?
En
ah
réfléchissant
bon
deux secondes, est-ce que ça peut vous
ah,
venir?
Genre
Plus belle la vie.
Non. Joséphine non dans le gardien.
H, c'est une sitcom, ouais, mais c'est pas ce qu'on appelle la grande époque. Si je vous dis AB Productions.
Bah, oh non, Hélène et les garçons.
Hélène et les garçons,
non,
le miel et les abeilles, premier
horreur
baiser. Ça, c'est l'âge d'or de la sitcom en France.
Camille, dis pas ça, une pensée pour Andrea quand même.
Oh non, c'est dégueulasse, désolé, mais bon.
Mais c'est vrai qu'on les oublie souvent, mais c'était l'époque où on avait le plus de sitcoms en France.
Oh la vache.
Eh oui. Donc, quelle est, d'après vous, la règle d'or de la sitcom? Ilias, je sais qu'on en a parlé plus tôt, donc tu la connais.
Le format, c'est court?
Pas nécessairement. C'est une règle, oui, mais c'est pas la règle d'or.
Moi, je trouve que dans la plupart des sitcoms, tu peux prendre un épisode comme ça au hasard et t'as pas besoin de connaître ni le début ni l'après, en fait.
Exactement. Ouais. Et pourquoi? Comment ça se fait?
Parce qu'il y a en fait, je sais pas comment dire, les épisodes, si je prends l'exemple de Friends ou même de Modern Family, ça s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire les personnages, ils préparent un mariage ou quoi que ce soit, mais chaque épisode traite d'un petit sujet particulier qui va n'avoir lieu que dans cet épisode-là.
Absolument.
En fait.
Si je vous parle du blabla de scénario, mais dans un scénario, on a une situation initiale, un élément perturbateur, conflit, etc., une résolution.
C'est ça.
Et en fait, le principe, c'est qu'un épisode de sitcom va prendre un scénario entier, contrairement à une série où ça va se passer sur l'étendue d'une saison entière.
Oui, tu prends l'exemple.
Là, tu vas tout prendre dans un épisode. Donc l'important, ça va être d'avoir un socle de base qui fait que tu peux te tuner sur n'importe quel épisode de n'importe quelle saison, tu vas t'y retrouver. Parce qu'en fait, tout ce qui va se passer dans une sitcom sera anodin. On va toujours avoir un petit drame, une petite situation de crise, mais qui va être résolue d'ici à la fin de l'épisode. Évidemment, il y a des exceptions. On va parler de sitcoms où il y a une demande en mariage ou un truc comme ça. Évidemment, il y a toujours un épisode où, bah, parce qu'on est obligé de faire un cliffhanger de fin de saison, etc., il faut s'adapter. Mais concrètement, on va toujours garder ce petit socle de base.
Ce que je trouve intéressant, c'est que si on prend des séries comme Futurama, on va dire que c'est une sitcom, je sais pas, c'est que, en fait, il y a beaucoup de séries dans ce cas-là, mais c'est intéressant de les prendre depuis le début, pas parce qu'il y a une histoire sur tout le fil, mais parce qu'on voit grandir les personnages, en fait. Donc, ils gagnent en intensité, en complexité, même si les épisodes, comme on disait, sont indépendants, mais à la fois, on peut faire des choses indépendantes et avoir des personnages qui s'enrichissent, donc c'est assez chouette.
Il faut toujours partir du principe que ta sitcom peut durer une seule saison et que t'auras peut-être pas le temps de développer tes personnages, il faut quand même que ce soit intéressant à regarder. Alors les sitcoms, tu disais les Simpsons, tu disais Futurama, c'est vrai, c'est dedans. Néanmoins, on va pas trop se baser là-dessus, on va plutôt se baser sur le bon vieux cliché de sitcom, Le Prince de Bel-Air, Friends notamment, etc. Qu'est-ce qui est pour vous la référence de ces sitcoms-là? Un truc qui a pu peut-être vous marquer là-dedans?
Un caractère clé?
On va en parler, mais je vais vous faire écouter un petit truc, vous allez me dire.
Le jingle.
Quel enfer!
Les rires enregistrés.
Aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est insupportable.
Ça l'est.
Plus le temps passe et plus on y arrive.
Puis surtout, il y a des fois, il y avait vraiment un public en présence.
Alors,
mais c'est pour Friends, je crois.
Friends
s'est tourné en public pour certains épisodes.
Figurez-vous que Friends n'a rien inventé. En effet, la sitcom, le principe de base, c'est que c'est tourné devant un public.
C'est ça.
Et on va enregistrer ce public pour avoir les rires de l'épisode. Alors, il y a des séries qui trichent. Parce qu'il y a des séries où c'est facile. Ça se passe dans un appartement. Typiquement, on va prendre The Big Bang Theory ou Friends. Ça se passe toujours au même endroit, c'est des plateaux rotatifs en fait, ce sont des plateaux qui sont sur roulettes, où en gros, toi et moi, on peut prendre un ticket demain pour aller dire, tiens, ce soir, on va pas aller au cinéma, on va aller voir The Big Bang Theory.
C'est genre la cape et l'épée en fait.
C'est comme aller au théâtre finalement, sauf que c'est une pièce de théâtre qui va durer 5 heures. Parce que pour 22 minutes d'épisode, enfin 30 minutes en comptant 8 minutes de pub, c'est quand même 4-5 heures de tournage. Donc il y a même une pause pizza au milieu, généralement ils vous amènent à bouffer au milieu du truc, il y a une entracte où on vous amène à manger, il y a des petites animations, etc. Mais en gros, vous pouvez aller voir le tournage d'un épisode de sitcom, ils vont changer les plateaux en fait, qui sont sur roulette pour avoir l'appartement. Et ce qui est très marrant, c'est que contrairement à un film où on essaie de jouer le temps, là ça va être tourné de manière chronologique. Donc ça peut changer 10 fois de décor s'il faut, ils vont faire revenir le décor pour que l'expérience soit agréable pour les spectateurs.
Mais comme disait Camille, ouais, c'est clairement la cape et l'épée qui a singé ça, où ils ont tourné les décors devant les. Devant le
public. C'est ça.
Bon, ils l'ont pas vraiment singé, ça a toujours été une tradition du théâtre en fait, mais en effet. Et voilà. J'ai perdu le fil.
Très bien.
Finalement.
Donc, voilà. Les décors, l'enregistrement.
Les décors changent. Alors, il y a des séries qui ont triché avec ça. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est très connu et qu'étonnamment on n'a pas mentionné, c'est How I Met Your Mother, qui lui n'était pas enregistré en public parce qu'il y avait beaucoup trop de décors, beaucoup trop d'angles différents, etc. Et donc là, c'était du réenregistré, mais c'était pas des bandes où on faisait ha 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 et voilà, on balançait un rire. On filmait l'épisode, ensuite on le projetait devant une audience qu'on enregistrait pour avoir les véritables réactions de l'audience. Et en fait, l'intérêt de l'enregistrer devant le public, c'est qu'on peut faire une scène, et là, ça rigole pas au moment où ça devait rigoler. Bah du coup, on va réécrire et rejouer la scène.
Ah, c'est pour ça que ça dure 4-5 heures.
Et des fois, on va faire 10 fois la même prise jusqu'à ce que les gens rigolent au bon moment.
Enfin, faut être sacrément réactif pour réécrire, réapprendre le texte, le jouer.
Et faut être très très bon public, surtout.
Mais oui, ce que je veux dire, ce qui est fou, c'est que tu vois genre 5, 6, 10 fois la même scène... Et au bout d'un moment, il y a la foule qui rit, il n'y a pas juste une meuf qui rit. Enfin, c'est.
Des fois, il y a une meuf qui rit, tu t'en rends compte quand tu regardes une sitcom, des fois, t'entends genre un rire très isolé qui est la seule personne qui rigole pour de vrai. Parce qu'évidemment, il y a des personnes qui disent voilà, il faut applaudir maintenant, il faut rigoler maintenant.
Oh la vache.
Et oui. Pardon. Et ce qui est marrant, c'est que le rire, ça fonctionne aussi par mimétisme quand on regarde une sitcom. C'est-à-dire que ce qui va nous faire rire dans une sitcom, c'est pas la blague, c'est le fait qu'il y ait des gens qui rigolent et par mimétisme, ça nous fait sourire, ça nous donne envie de rigoler. Alors que des fois c'est pas drôle du tout. Et donc c'est ce qui est très difficile avec les séries qui sont pas enregistrées devant un public. Par exemple, je vais vous faire écouter un petit extrait de Big Bang Theory justement. On va avoir un extrait donc normal.
Why do we want that?
Because there's a lot of gorgeous blondes out there who don't believe they can land a short nearsighted scientist. Let's give them hope.
Whatever, put us on the internet. I've always wanted a wedding with a comment section.
If you're not into this, we can do it another time.
No. No, I want to. Look, we've put this off long enough. Let's do it.
Oh, it's exactly what you said the first time we slept together. Oh, excuse me.
Donc, s'il y a des anglophones, ils se seront rendus compte d'un truc assez particulier, c'est que cette scène n'est pas drôle du tout. Mais alors, pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est dans le jeu des acteurs. Parce qu'on dirait pas comme ça quand on regarde une sitcom, on a l'impression de regarder du théâtre. Mais en fait, dans la vraie vie, on n'attend pas 4 secondes avant que quelqu'un dise quelque chose. Si je dis bonjour Ilias...
Salut.
Voilà, tu vas pas attendre 4 secondes avant de me répondre. Du coup, je vais vous remettre le même extrait,
sans les
rires.
Why do we want that?
Because there's a lot of gorgeous blondes out there who don't believe they can land a short nearsighted scientist. Let's give them hope.
Never put us on the internet.
C'est long.
I've always wanted a wedding with a comment section.
Elle réfléchit très longtemps.
If you're not into this, we can do it another time.
No. No, I want to. Look, we've put this off long enough. Let's do it.
Oh, it's exactly what you said the first time we slept together. Oh, excuse me.
Ah, il y a beaucoup de blanc.
Ouais, malaise ou pas?
Ouais.
C'est particulièrement horrible.
C'est-à-dire que quand ils jouent, ils comptent les 4 secondes potentielles de rire sur leur script. C'est écrit genre « Attention, les gens vont rire ».
Et on pense pas assez au fait qu'acteur, c'est un métier difficile. Imaginez-vous, Big Bang Theory, ça fait 10 ans que ça existe.
Ouais.
Pendant 10 ans de ta vie, une fois par semaine, tu vas jouer ça en attendant 4 secondes avant que la personne en face te donne la réplique.
Quelle horreur.
L'angoisse.
Parce que pour un épisode où il y a du public, c'est là que c'est génial pour les acteurs. Ils disent leur réplique, il y a des rires, ils enchaînent, c'est parfait.
Ouais, c'est
imaginez... How I Met Your Mother, où ils n'ont jamais enregistré en public.
Oh purée.
Legend. Derry.
Personne ne rigole, on attend 5 secondes avant que l'acteur d'après 17. T'imagines l'horreur?
L'exercice est difficile au début, mais je pense que l'inverse est difficile aussi quand t'as un public live qui rit et que t'es censé enchaîner du tac au tac.
Ouais.
Mais moi j'imagine surtout quand tu rejoins ta femme et tes gosses le soir, enfin. Genre, hey, salut! Comment ça va?
C'est bien, garde ça en tête, t'as compris l'esprit. C'est très bien. On va parler d'un dernier petit point avant une expérience. On va parler d'archétypes de personnages. Parce qu'en fait, la sitcom n'a pas inventé quoi que ce soit en matière de mise en scène. On est sur des archétypes de la comédia dell'arte. En fait, on a rien réinventé depuis. Mais je vais faire un petit test. Je vais vous donner des archétypes de personnages. On va voir si vous arrivez à m'en trouver un qui vient d'une série. Si je vous dis un personnage qui est le pilier, la personne saine, saine d'esprit, le pilier principal.
Howard? Non, pas Howard. Leonard dans Big Bang Theory.
Ça pourrait marcher.
Il est censé être le mec un peu juste.
Ouais. Mm-hmm. Si je vous dirais Monica dans Friends.
Hystérique.
Hystérique, ouais.
Je vous dirais, ben pourtant c'est plus ou moins le pilier. Je vous
Monica,
dirais,
le pilier.
Ouais.
Ah, bon,
c'est le personnage le plus puissant.
Ah, moi j'aurais dit Chandler. Hein.
On y reviendra. je vais vous dire Malcolm dans Malcolm in the Middle.
L'intelligent.
Bah non, c'est le seul personnage qui est pas complètement teubé dans toute la série, Malcolm. Mm.
C'est vrai. Ouais.
Ou Marge Simpson dans Les Simpsons, tout simplement.
Ouais, j'ai eu un doute aussi.
Ça, c'est vrai. Mm.
Si je vous dis le charmeur, qui est le bon jeu, qui est une adaptation du bon jeu.
Joey
Tribbiani, Barney Stinson.
Tout à fait.
Barney Stinson.
Bah oui.
Ah oui.
Ah oui, pardon. Non, je pensais à Barney dans Les Simpsons.
Non, étonnamment, ça marche moins bien.
Pas du tout.
On a aussi le personnage détaché qui prend tout avec un humour mais assez reculé. Alors, moi, l'exemple que je préfère, c'est Daria.
Oui.
Ah, oui.
On a aussi Chandler, on a aussi le Dr Cox dans Scrubs, qui est une sitcom d'ailleurs. Scrubs.
On oublie de la citer.
On a le personnage niais, qui est souvent aussi un des personnages principaux. On a Ted dans I Met Your Mother, qui est un personnage très niais. Ouais. On a Ross dans Friends. On a aussi le personnage un peu naïf. On va avoir dans Friends, ce serait qui?
Phoebe.
Phoebe, très bien. Dans Malcolm, ce serait qui?
Naïf.
Oui.
Ce serait pas Dewey, non?
Non, bah oui, non.
Le père, Al.
Al, ah, oui. Très bien.
Oh, mon Dieu, mais oui.
Et dans Scrubs.
La meuf, la
ça marche.
Blonde.
En fait, Scrubs, c'est un peu un piège parce que ça marche avec tous les personnages de Scrubs.
Moi, parce que
complètement
JB, il est charmeur, il est fleur bleue, il est.
Un peu de chance,
il est tout, c'est mon préféré.
Du coup, j'ai l'impression que vous avez bien compris l'idée, donc on va faire une petite expérience.
Voilà, pour les auditeurs, il y a Juan qui nous distribue des petites feuilles.
Je le sens avec, pas cette histoire.
Avec
ça va être drôle.
Un script. Donc je décris rapidement, il y a un script où on a chacun des lignes. Et on va avoir des choses à dire, ça va être chouette.
Ça va être très court. On pourra le refaire deux fois si jamais ça foire, mais ça va être assez simple. Hein.
J'aime bien la fin, c'est horrible.
Non, c'est ignoble. Pourquoi t'as écrit ça?
C'est pour que vous compreniez à quel point un truc pas drôle du tout peut être transformé par le prisme de la sitcom.
Action.
Donc vous êtes prêts, attention, on est vraiment sur un épisode de sitcom là.
On est à fond.
Sitcom,
donc rappelez-vous,
pardon, maman, c'est
la règle d'or.
On
faut attendre 3 secondes, 4
ouais.
secondes avant de répondre à quelqu'un.
Ça marche.
D'accord. Sauf si vous voyez rien marqué entre les deux répliques, parce que c'est toujours marqué quand on doit attendre.
Ok.
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 Alors je fais plaisir à Elias, je lui mets un petit générique qui va bien. Salut Elias.
Salut Juan.
Alors il paraît que t'as mangé un chat aujourd'hui.
Ouais, mais je l'ai pas fait exprès.
Hey, salut les gars. Dites, vous auriez pas vu mon chat?
Non.
Eh les gars, il reste du chat, qui en veut?
Mon Dieu, vous avez mangé Monsieur Moustache? Ouais, c'est pas grave, c'était un gros connard ce chat.
Félicitations, vous avez
oui,
une sitcom.
Oui, oui.
C'est un grand moment.
Magnifique. On fait le. Donc, au générique, à l'écriture, Juan. Au scripting, Juan. Au générique, Juan.
Je suis vraiment désolé.
Non, c'était vachement bien. Alors, moi, j'ai bien aimé. Bah, c'était, non, c'était cool de voir comment sont
faits. En fait, j'étais très motivé par ce sujet. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la sitcom finalement parce que c'est une toute petite partie de la série. Mais tout ce qui est série à la télé, en fait, c'est un sujet qu'il faudrait 4 heures pour couvrir, donc peut-être qu'on essaiera de le découper
vrai.
En petites parties. Donc, j'espère que vous avez retenu un petit peu ce qui fait une sitcom. Et désolé pour. Il y a quelques personnes un peu naïves qui ne font pas attention à tous ces trucs-là. Et notamment, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui n'avaient jamais entendu les rires enregistrés en regardant les sitcoms, parce qu'il y en a qui font pas attention. Désolé parce que je vous ai pourri, notamment Big Bang Theory qui est vraiment le pire exemple. Parce que Big Bang Theory, quand vous faites attention, c'est pas drôle du tout.
Tout le temps.
C'est vraiment pas drôle du tout. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faux rires par-dessus. Et amusez-vous, il y a beaucoup d'épisodes qui sont sans les rires sur Internet. Regardez-les, faites des cauchemars. Et on en reparle.
Mais d'ailleurs, petite digression, il y a la série française Caméra Café, qui initialement a été tournée sans réenregistrer. Il me semble qu'ils ont changé de producteur, de distributeur, de je ne sais plus quoi, et ils ont mis des réenregistrés, c'était l'enfer.
Ah oui,
c'était l'horreur.
Les projections test, quand il n'y a personne qui rigole, tu fais « Bon, les gars !»
Allez. Ok, bah non, mais super intéressant, je pense que il y aura moyen de voir d'autres styles en plus après, donc je suis curieux de voir comment on est manipulé pour kiffer les petites blondes avec des dragons et les nains qui ont des balades.
Après, si vous pensez que c'était chiant, vous le dites, on fera autre chose.
Bon, non. C'était relou, voilà, fallait qu'on en parle.
Allez.
Non, c'était cool.
Non, mais je pense qu'on regardera plus les séries de la même manière maintenant.
En tout cas, les sitcoms...
ouais, c'est ça.
Enfin, réfléchissez à quel point c'est vain, c'est vraiment du brainwash, ça fait un peu pesant de dire ça, mais c'est vraiment la série où on sait qu'il se passera jamais rien, en fait.
Oui, c'est vrai, mais c'est aussi pour ça que les gens regardent, je pense.
Oui, c'est une base où
ça fait, détend.
Il va se passer un truc, mais on va quand même rester sur des bases communes.
La meilleure chose qui puisse se passer, c'est qu'on crée une attente de fou pendant 10 ans pour avoir finalement une fin qui est décevante. Je pense à How I Met Your Mother.
Oui.
On crée une attente de fou pour finalement la fin de série qui est, pour ceux qui l'ont vu, nul à chier, finalement.
Qui, ma foi, tout ce qui est plus logique en plus. Hein,
oui, voilà.
Non, mais spoilez pas, les gars, j'ai pas regardé le dernier.
Ah bah, ça fait étonnamment,
ans,
mais...
oui, non, mais j'aime bien
la série
pas
qui s'appelle How I Met Your Mother, étonnamment, à la fin.
Oui, mais je veux pas savoir.
Au fait, sixième sens, il voit des morts. Hein.
Non, mais ça, c'est bon, je sais.
Ok, bah, je crois qu'on arrive au terme de cet épisode.
Déjà.
Et oui, c'était très cool. On remercie encore Mina de nous avoir rejoint. C'était chouette d'avoir une auditrice et de savoir un peu ce que vous pensez de nous. Et voir
absolument,
comment
c'était fortement intéressant.
Merci de m'avoir accueilli, hein, même si j'ai pas vraiment dit ce qu'on pense de vous. Mais...
Avez le plaisir.
Mais oui, c'était cool.
Voilà.
En plus, on est bien content parce qu'on a testé le nouveau studio et ma foi, on est quand même bien à l'aise. Hein. Il y a... écoutez, quand on tend les bras, on n'arrive pas à se toucher. Donc ça,
on n'arrive pas à choper la plancha non plus. C'est chiant.
Ça, c'est vrai que c'est relou par contre. Ouais.
Mais...
on va trouver une solution.
Mais ce qui
faut qu'on achète une plancha plus grande.
Habile.
Mais ce qui est cool, c'est que vu que maintenant on a un plus grand espace, on va pouvoir accueillir plus facilement des gens. Donc on vous teasera à ce propos, mais on va avoir plein d'invités sympatoches qui vont nous rejoindre, ça va être cool.
Ouais, franchement, venez, ils sont super sympas. Hein.
Ah, c'est gentil.
On est bien accueillis.
C'est cool. On remercie aussi Vincent du domaine de Pélissol parce que
c'est encore une de ses bouteilles.
Voilà, on est devenu accro, donc on en a racheté et c'est super bon. C'est toujours un bonheur et un plaisir. Et puis dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver
Dans deux semaines.
Voilà, dans deux semaines.
Comme toujours.
Pour un
nouvel
épisode.
Comme d'habitude.
Eh. Eh. Voilà.
On change pas.
On se retrouve, on est là, on a le soleil.
Avec le plaisir.
Complètement faux, il pleut de ouf. On est à Paris, je vous rappelle.
La lumière.
C'est la Toussaint absolue, quoi.
Non, et puis un dernier truc, on a reçu des propositions de sujets, c'était vachement cool.
Oui, c'était sympa.
Ça nous fait vachement plaisir. Déjà, on en a traité deux dans l'épisode 8. Et puis là, on a reçu encore plusieurs propositions qu'on va traiter dans les épisodes.
On va y réfléchir, oui.
Ouais. N'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Twitter, balancez vos idées. Vous avez des questions, des interrogations.
Pas sur les papillons.
Ouais,
si,
non,
plus c'est pourri, plus ils seront contents, franchement.
Non, ça,
oui,
c'est
bien sûr.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ça.
Comment les loups brossent les dents, tout ça, on va éviter.
Exactement.
Ouais. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines avec plaisir. Et ça va être bien joué tous.
Cordialement.
Allez, bisous.
Bisous à tous, merci.
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.